Bien, ben, tout d'abord, je voulais vous remercier de m'accueillir pour la troisième fois, c'est-à-dire que je finis par reconnaître des têtes de fidèles. Et je crois, j'étais en train de réfléchir cet après-midi en arrivant, je crois que je ne suis jamais allé nulle part trois fois. Je l'ai fait deux fois, mais je ne suis jamais allé trois fois.
Les bons, on les garde.
Je ne sais pas, et puis l'accueil aussi, parce que le bon en question, si l'accueil n'était pas bon, il ne reviendrait pas, il dirait qu'il est pris.
Parce que hein? Je peux vous dire qu'on a des vous avez des collègues qui viennent là pour la 7, 8, 9 ou 10e fois, qui disent, ben, écoutez, je suis surpris que vous m'invitiez toujours. Par exemple, M. Véran, moi je ne suis pas surpris. Hein.
Ah, oui.
Moi je suis plutôt surpris qu'il continue à accepter.
Voilà. Non, ben, si, il n'y a pas de raison.
Bon, merci.
Donc on est dans un sujet d'actualité. C'est une conférence que je fais d'ailleurs depuis assez longtemps, je crois depuis les années 2000 à peu près, mais là en ce moment évidemment, avec cette COP 21 qui est organisée à Paris, enfin au Bourget, mais on va dire à Paris. Et donc, alors j'ai réactualisé évidemment la conférence, vous allez voir. Mais le fond de cette conférence, en fait, quand je l'ai repris, c'est celle que j'ai faite au mois de mars devant les députés de l'Assemblée nationale qui m'ont invité. Alors évidemment, je suis allé, qui voulait avoir un peu un autre son de cloche. Alors du coup, bon, vous savez, comme on dit toujours, quand on cause dans le poste, hein, comme disait Coluche, il faut y aller, quoi. Et donc il y avait quelques idées fortes, il y avait quelques bons trucs que je voulais qu'ils entendent. Et donc je me suis pas privé. Et ils sont restés d'ailleurs les deux heures, assez curieusement. Après, on m'a dit, il y en avait qui avaient dit qu'ils devaient partir vers 18h, mais ils sont restés jusqu'à 19h. Bon, c'était à 17h. Et ils m'ont même demandé, parce que le débat a été tronqué parce qu'il fallait couper à 19h, si j'étais prêt à revenir pour encore discuter. Alors j'ai dit, il n'y avait pas de problème. Ça ne s'est pas encore fait, mais ça va se faire. Donc ça, c'est la trame, en fait, de cette conférence, et qui s'appuie aussi sur un bouquin que j'avais fait, que certains d'entre vous avaient acheté, j'en avais apporté quelques-uns, sur justement ces énergies de l'avenir. Alors, en fait, la COP 21, ben, un peu se voir quel avenir énergétique donc pour la planète, sans oublier, évidemment, bon, puisqu'on est en France, la situation de la France, c'est-à-dire face à ce défi énergétique mondial, quelle stratégie on devrait adopter ou on va adopter? On verra ce qu'on peut dire là-dessus. Alors évidemment, le problème, on le voit bien, il est mondial, parce que depuis quelques années, les accidents de Fukushima, hein, quand on regarde le nucléaire, et puis aussi donc l'Allemagne, notre voisin, qui nous sert toujours de référence, apparemment ils font toujours mieux que nous, et qui arrêtait le nucléaire. Donc les gens se posaient beaucoup de questions. Mais en fait, le problème, il ne faut pas le regarder au niveau de l'Europe, même au niveau de nos voisins, il faut regarder sur la planète. Hein. Et puis après, ben, regardez ce que ça donne avec la France. Alors les défis de ce siècle, les challenges, comme on dit aujourd'hui, en fait, ils sont de deux ordres. C'est l'énergie et l'eau douce. Alors l'énergie, évidemment, reliée à tous ces problèmes de pollution dont on parle, et dont on va parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que l'énergie, ben, elle est indispensable, évidemment, à la vie et au développement économique. Et en réalité, l'homme, quand on regarde bien, n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Hein, 2,7 kWh par jour, pour subsister, ça lui suffirait. En revanche, vous voyez, en France, on consomme 150 kWh. Chaque Français, 150 kWh par jour. C'est moins que les États-Unis, qui sont à 260. Et vous voyez, sur le côté, en fait, c'est 150 kWh par jour pour nous. C'est 3% de CET, c'est-à-dire la consommation d'énergie totale. Alors qu'en population, on fait que 0,87%. C'est mieux que les États-Unis qui, eux, vous voyez, en population, font 4,35, mais consomment plus du quart, évidemment, de cette consommation d'énergie totale. Alors, énergie égale santé, j'ai mis qu'un seul exemple ici, en fait. Une grossesse, par exemple, si vous prenez du temps même des hommes préhistoriques ou autres, ça, évidemment, ça demande de l'énergie. Les femmes fabriquent un enfant, mais c'est 10 kWh par mois. C'est-à-dire qu'au total, c'est 90 kWh. Mais vous voyez, en France, c'est 2500 à 3500 quand tout va bien. C'est-à-dire qu'on compte là-dedans, évidemment, l'hôpital, tous les examens qu'on fait, tout au long de la grossesse, tout le suivi, les appareils qu'on utilise, etc. Et ça apparaît sur l'espérance de vie. PVD, c'est les pays en voie de développement. Et vous voyez, donc, l'homme, 79,2 ans, la femme, 85,4 chez nous, alors que c'est 45 ans, 47 ans dans les pays en voie de développement. Et si je refais cette planche de temps en temps, je suis vraiment... enfin, je suis pas désolé, parce qu'on est quand même concerné, mais à chaque fois, c'est pour augmenter notre espérance de vie à nous et pas celle des pays en voie de développement. Hein. À chaque heure qui passe, on gagne un quart d'heure d'espérance de vie supplémentaire. Si on reste ensemble 2 heures, ben, vous allez gagner une demi-heure d'espérance de vie. Vous avez bien fait de venir, vous voyez. Et moi, quand je suis né, j'avais 53 ans d'espérance de vie. C'est-à-dire je ne voyais pas l'an 2000. Et on est maintenant en 2015. Pour l'instant, je touchais du bois. Je suis plutôt en bonne santé encore. Hein. Donc, vous voyez, voilà. Bon, mais ça consomme de l'énergie. On a besoin d'énergie. Et l'eau douce, c'est pareil. Hein. Et vous voyez que les besoins, en fait... Alors, c'est lié... Je terminerai ma conférence là-dessus, sur, évidemment, aussi l'humanité, la population mondiale qui augmente. Nos besoins augmentent de 64 milliards de mètres cubes par an. Et il n'y a qu'une solution pour l'avenir, évidemment, c'est de dessaler l'eau de mer. Et dessaler l'eau de mer, ça demande de l'énergie, 5 kWh par mètre cube, comme vous voyez, et ça fait 30 réacteurs de type EPR par an, ou 65 000 éoliennes de 5 MW. Hein. Alors, il y avait une solution, une fois, je ne sais pas si vous avez vu, à Thalassa, il nous avait parlé de ça, où on allait prendre un gros iceberg là-bas, tout en haut, en Islande, et puis on l'amenait, vous voyez, vers les Canaries. Mais quand vous faites le calcul, vous voyez, il faut 4000 tonnes au minimum de fuel. Bon, pour arrimer ces 4,5 millions de mètres cubes de glace. Et puis, bah, en fait, on aurait pu faire 9,3 millions de mètres cubes sans compter, évidemment, les autres dépenses, parce que tout ça, c'était en circuit fermé. Il fallait pas, évidemment, arriver avec un glaçon pour mettre dans le pastis aux îles Canaries, hein, quand même. Alors, les usages de l'énergie, électricité, chaleur, transport, bon, ça, c'est banal. Il y a deux unités, en fait, qu'on utilise. L'unité d'énergie, vous savez, c'est le joule, c'est-à-dire c'est une unité que personne n'utilise. Alors, celle qu'on utilise, c'est le kilowattheure. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on paye à EDF ou à GDF. Hein. Et ou bien, au niveau de l'individu, ce qu'on appelle la tonne équivalent pétrole, le TEP, qui fait 11 628 kWh. Bon, peu importe, en gros, vous allez voir, on consomme quelques TEP, 3 TEP par an, par individu chez nous. Et si on se place au niveau, évidemment, de la planète, on va parler en millions de TEP et en milliards de TEP, c'est-à-dire en méga et en giga TEP. Bon. Vous voyez, par exemple, entre 1900 et 2000, la consommation d'énergie primaire a été multipliée par 10. On est passé de 1 à 10, ce qui fait 2,35% par an. C'est lié à l'évolution de la population, mais pas seulement, puisque vous voyez qu'on est passé quand même de 1,65 milliard en 1900 à 6 milliards en 2000, mais ça fait que 1,48, si je puis dire, pour cent par an. C'est-à-dire qu'on a consommé plus d'énergie même que chacun des individus. Alors, le 30 octobre 2011, on a franchi la barre des 7 milliards de terriens. Or, on avait franchi la barre des 6 milliards en octobre 1999. Alors, vous faites le calcul, c'est facile à faire, hein, ça fait plus de 120 000 par jour. Alors, vous allez me dire, oui, mais depuis, on a pris conscience de ça, on a limité les naissances, tout va bien, maintenant, c'est beaucoup moins. Ben, OK, voyons. Hein. 3 décembre 2015, ce matin, à 5 heures, vous regardez, c'est sur Internet tous les jours, ça tourne, hein, on était 7 347 millions, c'est-à-dire plus de 132 000 par jour. Tous les jours, il y a 232 000 terriens en plus sur la planète, 232 000. Vous connaissez la population de Chalon-sur-Saône, ça vous donne une référence. Tous les jours, on ajoute 230 000 personnes comme ça. Il y a 402 000 naissances, il y a donc 170 000 à peu près décès. Et vous voyez, 402 000 naissances, ça fait plus que 4 par seconde. Vous voyez, il y a Coluche qui disait, il paraît qu'il y a une femme sur la planète qui accouche, qui met un bébé au monde toutes les 2 secondes, il faut se dépêcher de la retrouver pour l'empêcher de continuer. Et ben, il se trompait d'un facteur 8. C'est pas une toutes les 2 secondes, c'est 4 par seconde. Hein. Et vous voyez aussi ce qui est important. 57% en Asie, 26% en Afrique, 9% en Amérique latine, c'est-à-dire plus de 90% dans ces pays-là. 5% en Europe, 3% en Amérique du Nord, 0,8% en Océanie. Donc, 10 milliards de terriens en 2050, vous allez voir, c'est vraiment, à mon avis, un minimum, parce que ceux qui essayent de réduire, vous voyez, même 10 milliards, vous voyez cette courbe, il faudrait qu'elle s'infléchisse. Alors, pour l'instant, elle ne s'infléchit pas. La décision des Chinois, il n'y a pas longtemps, d'autoriser à avoir deux enfants, à mon avis, ça ne va pas arranger les choses non plus, hein, parce que même s'il n'y en a que 500 millions là-bas, sur le 1,5 milliard qui décide de faire ça, ça en fera quand même 500 millions en plus. Hein, bon. Et ceux qui disent qu'on va être 9 milliards, oui, alors là, pouf, faudrait chuter complètement, on ne voit pas comment on peut faire ça. Les économistes, d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, parlent même de 11 milliards. Hein. Bon, moi, je continue à dire 10, mais il y en a qui parlent déjà de 11. Ce qui, d'ailleurs, ferait jamais qu'une courbe a plafonné en haut, hein, vous voyez, parce que même 10 milliards, ça redescend. Alors voilà, bon, ça nous donne effectivement ces 10 milliards. Bon, peu importe, on ne va pas insister là-dessus. Alors l'Europe, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'Europe, ben, c'est peu de choses, en fait, sur la planète, hein, quand on regarde bien. C'est pas énorme. Ça, c'est important aussi. C'est la consommation d'énergie commerciale, vous voyez, en TEP par habitant. Hein, donc on a vu les TEP maintenant. Donc vous voyez la grosse différence entre l'Amérique du Nord, l'ex-URSS, l'Europe de l'Ouest. Et puis Amérique latine, Asie, Afrique, là où vous avez vu qu'il y avait 80% des naissances en réalité. Hein. Donc évidemment, ces pays-là ont tendance à consommer de plus en plus d'énergie dans l'avenir. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien, le grain de riz et le transistor. Ça aurait pu être une fable de La Fontaine s'il avait connu le transistor. Depuis 10 ans, depuis 2005, en fait, on produit sur la planète plus de transistors que de grains de riz. Et pour moins cher. Et comme ça, c'était en 2005 et que ça double tous les deux ans, vous voyez, on en est aujourd'hui. Alors c'est une image qui est assez belle, qui montre en fait, peut-être le riz peut symboliser les pays en voie de développement, les transistors, le monde technologique, et évidemment, tous ces pays-là ont tendance, et c'est logique quand même, à venir un peu dans un monde qui ressemble au nôtre, et donc ça va aussi exploser les demandes énergétiques. Alors, je vais passer assez vite sur les scénarios. En fait, donc dans le livre que j'ai écrit avec un journaliste, on avait pris trois scénarios. Le premier, c'est un scénario qu'on avait emprunté au vert, d'ailleurs français, qui disait « il n'y a aucun problème d'énergie sur la planète, il suffit que ceux qui consomment beaucoup en donnent à ceux qui consomment peu, et puis voilà. Bon. » Alors on peut faire le calcul. Hein. Déjà, bon, si vous demandez aux Américains de diviser par deux leur consommation d'énergie comme ça, vous savez ce qu'ils vont vous dire ou ce qu'ils vont vous faire. Bon, bref, on fait le calcul. Le deuxième scénario, c'est la maintien d'une croissance comme au XXe siècle, de 35% par an dans les pays développés, et une croissance plus forte dans certains pays en voie de développement, qui est le scénario qu'on peut appeler le plus réaliste, parce que c'est ce qui se passe depuis les années 2000. Un peu moins maintenant, mais on a même eu une croissance à deux chiffres hein, dans ces pays-là, ce qui était quand même énorme. Et alors en 2025, on les a mis à 2,35 comme tout le monde. Et puis le troisième scénario, c'est ce qu'on a appelé le scénario du XXe siècle, c'est-à-dire on fait comme au XXe siècle, alors là c'est facile, on arrive à 32,5 gigatep en 2050, peu importe les petits calculs qui sont là, c'est juste pour justifier. Donc vous voyez que ben, l'hypothèse 1, celle des Verts, qui disait il n'y a pas de problème parce qu'il suffit que ceux qui ont beaucoup donnent à ceux qui n'ont pas beaucoup, on passe de 10 à 46. C'est-à-dire que ce qu'ils ont oublié, c'est qu'évidemment, il y avait très peu de population qui avait beaucoup et il y avait énormément de pauvres, entre guillemets, en énergie. C'est ça le problème. Bon, la deuxième hypothèse, qui est l'hypothèse la plus réaliste, on arrive à 57,2. Et la troisième, donc 32,5. Donc, vous voyez, entre l'une et l'autre, en fait, le delta, il va du simple au double, il va de 22 à 47. Alors, il a été de 9 en 100 ans. Hein. Donc, il va être compris entre 20 et 50. Alors, aujourd'hui, évidemment, parce que vous allez voir qu'on ne va pas y arriver, on se base sur 20, plutôt, ce qui est déjà énorme. Hein. Mais ça, il faut les trouver, évidemment. Donc, la question, c'est, est-ce qu'on peut au moins respecter la plus minimaliste? C'est-à-dire, pas faire mieux qu'au 20e siècle, oui. Alors jusqu'en 2025, on va y arriver, et grâce à, encore une fois, vous savez, aujourd'hui, la plus forte croissance chaque année depuis quelques années. Quand on pose la question aux gens, alors on bourre tellement le mou avec les éoliennes et machin, ils répondent dans les énergies renouvelables. Non, non, c'est le charbon. Hein. Depuis quelques années, c'est le charbon qui augmente, c'est-à-dire que c'est ce qu'on consomme le plus pour l'instant. Mais après 2025, qu'est-ce qui va se passer? Parce que de toute façon, on va finir par épuiser ces combustibles fossiles. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va en parler tout à l'heure. Alors les sources d'énergie, elles sont multiples. Hein. Vous avez là, il y a l'eau, il y a le soleil, il y a les courants, il y a le vent, il y a la marée, il y a la biomasse, il y a la géothermie. Il y a la vapeur, hein, et là on retrouve soit du combustible fossile, soit du combustible nucléaire pour faire cette vapeur. Il y a même l'énergie musculaire que j'ai mis entre parenthèses. Ça a été l'esclavage pendant longtemps, heureusement, plus trop maintenant, mais les animaux de trait, par exemple, ça, c'est bien de l'énergie musculaire. Mais vous verrez tout à l'heure, c'est quand même peanuts par rapport au reste. Alors les sources d'énergie, vous les voyez là, c'est quand même assez important. Bon, le nucléaire fait 6%, les renouvelables 13%, ça a bien augmenté. Mais vous voyez le reste, charbon, gaz, pétrole, quand vous regardez ça, ça fait plus de 80%. En fait, hein, donc aujourd'hui, on fait la COP21, on dit qu'il faut diminuer les rejets de CO2, etc. Aujourd'hui, c'est 80%, même un peu plus, de notre production énergétique. Hein. Donc ça veut dire que si demain, on devait arrêter ça, on fait comment, hein. Surtout que vous avez vu que la demande énergétique va augmenter. Donc c'est une bonne question. Alors on disait tout à l'heure, quelle utilisation de l'énergie, chaleur, électricité, transport. On retrouve ça ici, et vous voyez, ben, le seul qu'on retrouve dans les trois, c'est le combustible fossile. Bon. Là où il y a le plus de diversité, c'est pour faire de l'électricité. Hein. Et mais voilà, encore une fois, à quoi on est confronté. Alors, les réserves, évidemment, des combustibles fossiles, elles vont s'amenuiser. Ce qui est important dans ces années de réserve, vous voyez, charbon, on met 160 ans, le gaz, 60, le pétrole, 42, en 2013, c'est l'expression au rythme actuel. C'est-à-dire, ça, c'est à un instant donné. Vous voyez, les importations chinoises de pétrole ont été multipliées par 6 en 10 ans, entre 1996 et 2006. L'Arabie Saoudite a multiplié par 100 sa exportation de pétrole vers la Chine. Donc ça veut dire que, voilà, si vous consommez de plus en plus, évidemment, ce que vous dites à un moment donné pour les réserves, bah, vous pouvez diminuer aussi le nombre d'années. Hein. Alors, il y a, si on ne veut pas employer le mot gaz de schiste qui fait peur, maintenant on dit pétrole ou gaz des roches-mères, ça fait mieux. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein, c'est coûteux en énergie de toute façon à exploiter. Et puis, pour l'instant, c'est polluant. On va en reparler tout à l'heure, donc je vous en dis pas un mot tout de suite. Et alors, à la fin du millénaire, il y a eu deux événements importants. Il y a eu le développement durable, répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. C'est un peu la traduction qu'on peut faire de ce sustainable development. Parce que développement durable, c'est pas très très joli. Ça intéresse les lapins de développer le durable, mais autrement, c'est pas terrible, quoi. C'est pas une idée nouvelle, vous voyez, parce que nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui est décédé en 44, donc c'est lui qui a écrit ça, et il paraît qu'il avait emprunté lui-même à des Indiens au siècle précédent. Donc, c'est pas ce qu'ont fait nos ancêtres, hein, on est bien d'accord. Hein, c'est-à-dire nos ancêtres, ils sont allés au plus vite parce que voilà, ils étaient quand même dans une situation beaucoup plus malheureuse, et ils ont pas, ils ont dépensé un peu sans penser à ce qui allait se passer. Alors, quand vous regardez la consommation de pétrole en 20 ans dans ces époques-là, au moment donc on parlait de ce sustainable development, vous voyez que les pays qui se sont développés, la Corée du Sud en 25 ans, elle est sortie du Moyen Âge et elle nous a même dépassé. Hein. J'étais encore invité en Corée du Sud au mois de juin là, j'étais déjà allé 2 ans avant. C'est impressionnant, hein, très très impressionnant. Hein. Même sur le médical, par exemple, hein, c'est vraiment. Un pays qui est en progrès fantastique. L'Inde, 240%. La Chine, 192%. Le Brésil, 88%. Bon, les autres pays qui consomment beaucoup, vous voyez, encore plus 23%, plus 16%, plus 12% pour le Japon. Et la France, elle a fait moins 12%. Hein. C'est-à-dire qu'on est, depuis très longtemps, il faut insister là-dessus, on est depuis très longtemps un bon élève. Alors, la deuxième chose, c'est le protocole de Kyoto. On est vraiment dans la COP21, l'ancêtre de la COP21. Les pays qu'on a appelés les pays de l'annexe 1, ça c'est de toute façon l'annexe 1 du rapport, hein. C'est-à-dire il y avait l'Europe des 25, c'était les 15 à l'époque, la Russie, les États-Unis, l'Australie, etc., vous lisez comme moi, s'engageaient à une réduction globale de 5% des émissions de gaz à effet de serre, ce que veut dire le GES ici, entre 2008 et 2012. Ouais, là on est largement passé au-delà. 159 pays, vous voyez, on dit là on a réuni 140 pays, mais là il y en avait 159. En décembre 97, non, c'était au millénaire précédent, donc on a un peu oublié, mais il y avait quand même 159 pays. Hein. Mais avait été dit, on mettra ça en œuvre simplement si 55% des pays qui représentent aujourd'hui, c'est-à-dire donc en 97, 55% du volume total des émissions de CO2, signe le protocole. Et les pays en voie de développement ne sont pas concernés. Bon, on est là aujourd'hui en disant, attendez, il faut quand même qu'ils se développent. Nous, on a beaucoup consommé, on s'est développé. On ne peut pas quand même demander à tout le monde de faire la même chose. Et alors, les pays ont été tranquilles pendant longtemps parce que, il n'y avait pas 55% des pays qui avaient signé. Donc les autres ont pu continuer à dépenser tranquillement, en disant, nous, on n'était pas signés, mais puisqu'il y en a qui ne veulent pas signer, il y avait la Russie, il y avait le Canada, il y avait l'Australie, il y avait les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, là-dessus, vous voyez. Donc nous, on ne signe pas. Bon. Donc ils étaient un peu tranquilles, donc ils continuaient à dépenser. Ça, c'est une planche intéressante. Il y a très longtemps que j'ai mise, mais j'y ai pensé avec la COP21, en disant... On va voir ce que ça donne aussi, parce que après des grandes réunions comme ça, des grands barnums comme la COP21, vous allez avoir le vœu pieux, et les gens vont dire, voilà ce qu'on va faire, et puis après vous regardez ce qu'ils ont fait. Hein. Voyez, les États-Unis avaient dit, on va faire moins 7 entre 90 et 2002. Ils ont fait plus 16,7. L'Europe des 15 avait dit, on va faire moins 8, fait plus 3. Le Japon avait dit, on va faire moins 6, ils ont fait plus 19. La Chine, elle n'était pas concernée, elle a fait plus 44. Et la Russie, alors il n'y a que la Russie, parce qu'ils se sont aperçus qu'avec quelques petits gestes simples, en fait, qui gâchaient effectivement énormément d'énergie, hein, et du coup, ils ont signé le protocole, et du coup, on est passé au-delà des 55%. Alors, ça en a gêné beaucoup, mais ils ont dit, on va signer, bon. Et vous voyez, le monde a fait plus 16,4 déjà dans cette période-là. Donc, vous voyez, voilà, il y a le vœu pieux d'un côté, et puis il y a ce qu'on réalise à côté, hein, bon. Alors ça, c'est intéressant aussi de voir. C'est les tonnes de CO2 par habitant. Alors, j'ai pas mis tous les pays, évidemment. Parce que, par exemple, vous avez le Qatar, il est à 40. Hein, donc c'est encore bien, bien au-dessus de l'Australie, mais c'est pas un très grand pays. Alors vous avez, voilà, le podium, hein, pour moi, Australie, Arabie Saoudite et États-Unis. Bon, le Canada est pas loin quand même, la Russie aussi. Et vous voyez, l'Allemagne est à 9,8, quand nous, on est à 5,6. Alors la Chine est à 5,9, je l'ai mise quand même en rouge, pourquoi? Parce que si, au lieu de le faire par habitant, vous le faites par pays, évidemment, là, la Chine, elle passe en tête, hein, elle bat même largement les États-Unis. Pendant très longtemps, sur ce classement, j'ai laissé les deux en rouge, parce que la Russie était avant l'Inde, et je disais à l'époque, mais l'Inde, bientôt, va franchir, va devenir troisième. Et ça y est, c'est fait, c'était 2011, maintenant, avec les chiffres de 2013, c'est l'Inde qui est troisième. Et la France, vous voyez, elle est 15e par rapport à ça, avec 369. Alors, si on regarde l'Europe, c'est le Luxembourg. Alors, c'est un petit pays, certes, mais enfin, Luxembourg, qui est nettement en tête. Estonie, après, vous avez Pays-Bas, Norvège, Russie, Irlande, Bosnie-Herzégovine, etc. Bon. Vous avez la France, 66e au monde, si vous prenez tous les pays, 27e sur 36 en Europe. Et puis, vous avez quand même quelques pays qui font mieux, hein, même la Suède, parce que la Suède, elle a moitié nucléaire, moitié eau. Donc, la Suisse aussi, qui fait mieux. Et quand vous regardez bien, l'Allemagne, donc, qui, supprimant le nucléaire, va installer d'ici 2020 24 gigawatts de gaz et de charbon, ça va lui faire plus 3 quand même par habitant. Hein. Et donc, vous voyez, elle va rejoindre le podium. Hein. Et elle va se retrouver à 12. Quoi. Bon. Donc, voilà. Bon, on n'en parle pas trop, mais bon, voilà. L'Académie des sciences, vous voyez, en février 2015, voilà, fossil fuels pour les Allemands, la France en, nettement en dessous, quoi. Bon, faut toujours avoir ça en mémoire, hein. On est un bon élève par rapport à d'autres. Émissions en CO2 des différentes filières de production d'électricité. Alors, c'est donc des grammes de CO2, puis on est dans le CO2 avec la COP21, allons-y, on continue. Alors, bon, hydraulique, nucléaire, etc., on en voit un petit peu. Ça peut paraître choquant, c'est tout simplement parce que il y a la construction, il y a la maintenance, il y a le démantèlement, il y a les gens qui mangent à la cantine, ça fait un peu de CO2 quand même, bon, mais pas beaucoup. Hein. En revanche, effectivement, quand vous arrivez après dans les combustibles fossiles, 430, 880, 890. Mais vous voyez que pour l'éolien et le photovoltaïque, j'ai mis un chiffre en rouge en dessous qui est lié au grand drame de ces énergies renouvelables, qui est leur intermittence. Et donc leur non-fiabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme disait un élève, le solaire c'est bien, mais il y a des jours où il fait nuit. Il y a des jours où il fait nuit. Donc passer aujourd'hui à 17h ou 16h jusqu'à je ne sais pas quelle heure demain, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de soleil. Bon. Et du coup, si Si c'est peanuts, si c'est pas beaucoup d'éoliennes, pas beaucoup de photovoltaïques, bon, c'est pas grave, ça marche pas, c'est pas grave. Mais si ça devient une source importante, vous pouvez pas vous permettre de pas en avoir. Bon, parce que le vent, ça fait tourner les éoliennes, vous avez pas tourné. Et si vous en avez besoin, vous allez voir des exemples tout à l'heure, ben, vous pouvez pas vous permettre que ça... Alors, eh ben, il faut une autre source. Et une source rapide, tout de suite. Hein. Eh ben, c'est le gaz. Il y a que ça. Hein. Donc, si vous regardez au rendement identique à l'hydraulique ou au nucléaire ou au combustible fossile, à rendement identique, ben, tout compte fait, l'éolien et le photovoltaïque, eh ben, ils sont à 380 et 400. Hein. Ce que montre la France, vous voyez ici, voilà, la France, encore, c'est toujours le rapport de l'Académie des sciences. Comme c'était février 2015 et que j'avais fait mon truc en mars à l'Assemblée, j'avais dit, tiens, je vais leur mettre des trucs sérieux comme l'Académie des sciences quand même. Donc j'avais rajouté cette petite planche, je voulais laisser. Et on vient de faire moins 10%, nous, rejet de CO2 en 2014. On a appris ça il n'y a pas très très... c'est il y a moins de 15 jours. Alors je reprends cette planche, vous voyez, en fait... Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que, du coup, on est obligé de construire des centrales à gaz si vous développez de l'éolien et du photovoltaïque. Hein. Alors imaginez, par exemple, c'est le cas des Danois, voilà, vous voulez installer 10 gigawatts de gaz. Mais vous pouvez pas dire à vos populations très écolo, on va installer 10 gigawatts de gaz. Parce que là, tout de suite, bon, ils vont être contre eux. Alors vous dites, on va installer 10 gigawatts d'éolien. Oh, ouais, bravo, formidable. Bon. Ah oui, mais 10 gigawatts d'éolien, c'est quand même beaucoup. Donc, et quand ça tourne pas, c'est zéro. On fait quoi? Ah ben oui, ben on est obligé d'installer aussi 10 gigawatts de gaz. Bon, alors du coup, on installe 10 gigawatts de gaz. Alors vous voyez, nous, on installe 11,7 gigawatts, certes, pour remplacer quelques vieilles centrales à charbon, mais surtout parce qu'on est en train de faire monter en puissance ces énergies renouvelables. Hein. Vous avez ici l'ensemble, donc vous voyez que le renouvelable maintenant fait 28,5 gigawatts. Le thermique classique était à 24,1, donc il est plus, mais on réinstalle 11,7 en plus aujourd'hui, justement pour pallier cette montée. Quelles énergies pour demain? Donc j'y arrive, bilan énergétique. Donc vous voyez déjà apparaître quelques petites idées fortes. Hein. Ça c'est le livre que j'avais fait, j'en avais apporté quelques-uns, je me souviens là, ici. Et dans ce livre donc, que j'avais fait avec Saint-Jacob, on avait essayé, vous vous souvenez l'exercice qu'on avait fait, c'est on s'était dit, ça je dis ça pour ceux qui ont lu le livre, on va faire un exercice ni économique ni écologique, mais puisqu'on a un besoin important d'énergie en 2050, on va développer, à part les combustibles fossiles évidemment, mais toutes les sources d'énergie au maximum. On va mettre des éoliennes sur la planète, partout on peut en mettre, on va mettre du photovoltaïque partout on peut, on va faire des barrages, partout on peut faire des barrages, etc., etc. Et moyennant quoi, donc vous voyez, on arrivait à des valeurs, évidemment, qui devenaient énormes, même si pour les énergies fossiles, vous voyez ici, malgré tout, on était passé de 8 à 12, ce qui n'était pas énorme, puisqu'on avait quand même en pourcentage divisé par 2, mais on ne peut pas s'en passer, évidemment. Je vais vous redévelopper ça très rapidement. Quelques considérations, justement, c'est ça aussi que je voulais qu'entendent nos députés. On va commencer par l'éolien. Alors évidemment, quand vous installez ça dans des déserts, les Américains ont fait ça beaucoup. Ils ont un peu abandonné parce qu'ils ont trouvé que c'était pas rentable, mais ils avaient fait beaucoup pratique. Mais quand vous faites ça dans des pays comme les nôtres, qui sont quand même, où il y a de l'habitat qui est assez diversifié, bah, vous avez une nuisance sonore, vous avez une nuisance visuelle, elles sont parfois dangereuses, hein. Il y a des accidents qui arrivent, toujours mortels pour les oiseaux, parce qu'un oiseau qui se prend une pale, c'est sûr que là, il s'en sort pas. Hein. L'emprise au sol, elle est élevée, ouais, ça fait 80 hectares par mégawatt quand même, ce qui est énorme, je reviendrai là-dessus rapidement tout à l'heure, parce que ben, vous voyez que la plage de vent, c'est entre 50 et 90 kWh, c'est ce que vous avez là. Avant, bah, c'est pas suffisant pour produire l'électricité, et au-delà, faut l'arrêter. Donc, on l'abrite, donc ça fait très très assuré. Hein. Mais en fait, c'est pas ça le plus important. J'ai eu aussi un prix qui était le prix d'impertinence, parce que j'ai eu un prix avec l'île de Saint-Jacob, mais j'en ai eu un aussi avec qui s'appelait le prix de l'impertinence, que j'ai eu tout simplement parce que j'avais écrit qu'il fallait mettre des éoliennes là où il y a du vent et puis mettre du photovoltaïque là où il y a du soleil. Et moi, j'ai dit, je vois pas où est l'impertinence. Hein. Alors si, c'était impertinent parce que c'était pas politico-écologico-correct, évidemment. Hein? Parce que pourquoi? Vous l'avez ici, vous voyez rouge-violet, c'est là où il y a les bons rendements, là où il y a du vent, c'est là où il faut les mettre. Et où est-ce qu'on les a mis? Certes, oui, Languedoc-Roussillon, vous voyez, 407, il y en a, mais regardez, tout l'Est, tout le centre, etc., là où il y en a le plus, c'est là où les rendements sont les plus mauvais. On les met là parce que les régions, évidemment, ça leur fait du fric, et donc, eh ben, ils les acceptent. Et on est trop content qu'il y en ait qui acceptent, donc on les met. Mais c'est pas là que c'est voilà, là, c'est pas la peine d'en mettre, ça. Tout ça sert à rien, hein. Regardez, Midi-Pyrénées, là, 231, c'est la zone bleue. Le bleu, c'est vraiment le rendement le plus faible, quoi. Bon. Donc, voilà. Donc, voilà ce qu'on fait, hein. Et alors, le rendement. Alors, c'est facile. Vous prenez RTE, vous voyez, 9120 MW installés, ça fait 5500 éoliennes, déjà, hein. L'énergie produite en 2014, 17 TWh. Pour un potentiel de 79,9. Rendement, 21%. C'est-à-dire que, en fait, sur toute l'année, vous voyez, ben, vous n'avez qu'une éolienne sur cinq qui fournit de l'électricité. Et ce n'est pas le pire. Vous verrez tout à l'heure. Alors, en septembre 2009, moi, j'ai une maison dans la Manche, là-bas. Et donc, je lis la presse de la Manche quand je suis là-bas. Et je lis, Greenpeace dit, 2000 éoliennes pourraient remplacer un réacteur EPR, puisqu'ils sont toujours contre l'EPR. Eh bien, c'est vrai. Il faut déjà se rendre compte que ça fait 2000 éoliennes. Hein. Mais le coût, vous voyez, aujourd'hui, on arrive à 10 milliards, le PR, c'est tête de série, et tout le monde hurle. Et là, c'est entre 20 et 30 milliards, quand même, que ça ferait. Hein. Parce qu'évidemment, quand on n'en fait pas beaucoup. Donc ça fait des coûts qui sont en centaines de millions. Mais si vous voulez comparer à un truc énorme comme un réacteur nucléaire, alors là, ça change la donne. Et alors que c'est 1 million de tonnes de béton pour le PR, on en a fait vraiment beaucoup, d'ailleurs, peut-être un peu trop, mais on peut dire que c'est jamais trop. Là, c'est entre 4 et 10 millions de tonnes de béton. Hein. C'est à peu près 5000 tonnes au socle. Alors évidemment, ça se voit pas. C'est-à-dire c'est enfoui dans le sol, hein, vous voyez, avec l'éolienne. Et je dis aux agriculteurs qui ont reçu, si, parce qu'ils disent, oui, mais de toute façon, moi, dans 20 ans, ils m'ont dit qu'ils reprenaient l'éolienne et tout. Alors, j'ai dit, mais vous avez lu les petites lignes, là? Il faut lire en bas, là, les petites lignes, là, qui sont à peine lisibles. C'est pas le béton. Le béton, il reste. Là, vous en avez pour 200 000 euros. Hein. Si vous voulez retirer les 5000 tonnes de béton, vous en avez pour 200 000 euros. Alors évidemment, ils ne vont pas le faire. C'est-à-dire, le béton, il va rester. Quoi. C'est les lapins qui vont être étonnés, comme disait Alphonse Daudet. Hein. Alors, tout ça pour dire que, du coup, le coût de fonctionnement, effectivement, il est élevé. Et ça marche. Pourquoi? Ben, ça marche parce que, évidemment, on oblige EDF à racheter, et ce n'est pas seulement vrai pour l'éolien, c'est vrai aussi pour le voltaïque, très cher par rapport à ce que, évidemment, elle peut produire le kilowattheure électrique. C'est-à-dire que sur un plan économique, sinon, ça ils peuvent produire à 3,3 et on les oblige, vous voyez, à racheter à 8,6 pendant 5 ans, puis 7,2 pendant 15 ans. Et en 2015, la facture, elle va faire à peu près 2,5 milliards d'euros. Vous pouvez retrouver ça sur votre facture d'électricité. Alors, on est au troisième rang européen, quand même, c'est pas mal. Hein, mais, voilà, le problème de ces énergies, si on voulait vraiment développer les énergies renouvelables, on va voir ce que va faire la COP21, mais l'un des défis lancés, c'est savoir stocker l'énergie à grande quantité. Voilà. Lancer un programme de recherche en disant, voilà, ça permettrait effectivement de développer ces énergies dites renouvelables. Parce que l'intermittence, évidemment, c'est quand même quelque chose... Et alors, intermittent, bon, on peut dire avec le photovoltaïque, bon, on peut se dire, bon, en tout cas, on sait qu'on n'y en a pas. Hein, c'est entre, on l'a vu, là, 19h, on va dire, pour prendre une moyenne, 19h, 7h, bon. Mais l'éolien, c'est même pas ça. C'est-à-dire, il y a des coups, ça tourne, et des coups, ça tourne pas. Bon, ça peut être la nuit, ça peut être le jour, bon. Donc, c'est un vrai problème. Hein. Alors, si on fait 3 gigawatts, vous voyez, ça fait quand même 6 millions d'éoliennes. Bon, ça fait quand même 57 milliards d'euros. Bon, et on vous dit que c'était ni écologique ni économique, notre raisonnement. Alors, passons aux barrages. Alors, les barrages, c'est pareil, le coût de production est relativement élevé. Le rendement est pas mauvais. L'emprise au sol, écologiquement, elle est énorme, hein, 30 hectares par mégawatt. Hein. Le barrage des Trois Gorges en Chine, vous voyez, c'est quand même 1 200 000 personnes déplacées. Alors des fois, les gens me disent « Ouais, mais c'est rien pour les Chinois, 1 200 000. » Quand même, merde, quoi. 1 200 000 personnes, quand même. Bon, 20 villes, 1000 villages engloutis, quoi. Hein. Bon, c'est comme quand je leur dis, tous les ans, il y a 6 000 morts dans les mines. On entend tout comme réflexion. C'est 6 000 morts tous les ans. Hein. C'est la méthode à 6 000. Hein. C'est-à-dire que tous les ans, vous avez 6 000 morts dans les mines en Chine. Et ils me disent, ouais, mais c'est rien pour eux, les Chinois sont tellement nombreux. C'est quand même, un mort, quoi. Bon. Donc, des ruptures dramatiques. L'hydraulique fait énormément de morts aussi, en dehors des mines de charbon. Vous vous souvenez à peu près tous, parce que vous avez mon âge à peu de choses près, en France, hein, 2 décembre 59, 21h, c'était un mercredi soir, vous vous souvenez, pendant la piste aux étoiles, à la télé, le barrage de Malpasset, hein, 423 morts. Hein, voilà, bon, 21h13. Bon, voilà. Alors, là, c'est facile, les barrages, vous avez un facteur 6, c'est-à-dire, si vous voulez noyer tout ce que vous pouvez noyer pour faire de l'hydraulique, il y a un facteur 6, donc vous passez à 1,5. Bon, là, on ne peut pas faire mieux, mais à condition, évidemment, qu'on arrive à le faire. Hein. Sivens, qui n'était même pas un barrage, une retenue d'eau sur 50 hectares. Hein. Vous avez vu, tout, hein, bon, on a tout stoppé, etc., parce que vous avez 300 types qui sont là, mais c'est les mêmes qui venaient de Notre-Dame-des-Landes, qui vont aller à Fessenheim, qui vont, etc., bon... et qui manifestent, voilà. Il y a eu 3000 personnes qui en avaient besoin, qui ont aussi manifesté. Ceux-là, on s'en fout complètement, hein. Et voilà. Donc on n'est même pas foutu en France de faire une retenue d'eau de 50 hectares. Et vous voyez, au Brésil, c'était un énorme projet. Là, on est en novembre 2011. 11 200 mégawatts, hein. Ben pareil, manifestation, etc. Donc bon, on ne sait pas trop si c'est une bonne idée. Alors, passons au solaire. Photovoltaïque et puis chauffe-eau solaire. Alors, la conversion thermique, chauffage solaire, chauffe-eau solaire, etc., ça, si on peut développer ça au maximum, ça, il n'y a aucun souci, c'est vraiment très économique, très écologique, tout ce qu'on pourra faire, ça sera très très bien. La conversion thermodynamique, les fours solaires, ça c'est autre chose, vous voyez, le prix du kilowattheure, il n'est plus en centimes d'euros, il est en euros, là. Hein. Et puis vous avez toute la conversion photovoltaïque, hein, toutes les cellules photovoltaïques. Alors, c'est un coût du kilowattheure élevé, mais évidemment, c'est rentable en autonome dans les pays en voie de développement. Et je vais développer ça tout à l'heure. C'est une de mes idées fortes, ça. Alors, chauffage solaire, chauffe-eau solaire, bon, c'est impeccable. Ça, c'est en Sicile, évidemment. Bon, c'est mieux que chez nous, mais bon. Alors, le photovoltaïque, quel est le rendement ? Alors, rendement, bon, je ne vais pas inventer les chiffres, j'avais donné ça comme exercice une fois à mes élèves, j'avais eu le journal Métro, alors j'ai dit, tiens, je vais leur donner ça comme exercice sur les unités d'énergie. C'est pas moi qui le dis, hein. Ils disent, voilà, cette centrale de 33 MW va produire 43,5 millions de kWh par an. Alors j'ai dit, voilà, vous me calculez quel rendement. La réponse est 15%. Hein. Alors, on est à Curban, c'est-à-dire qu'on est dans les Alpes de Haute-Provence. Donc, c'est 15%, mais en fait, quand vous regardez les chiffres de RTE, c'est 11-12% hein, en 2013-2014. Hein, tout simplement parce qu'on est un pays où, qui a moins de soleil qu'à l'équateur. Quoi. Bon. Ça, donc, je vous en ai parlé. Il y a aussi les pompes à chaleur, parce que souvent, les pompes à chaleur, on pense que c'est de la géothermie. Alors, c'est de la géothermie si c'est comme ça, là, que vous descendez à 80 mètres, oui. Mais autrement, quand vous vous contentez de faire ça à quelques dizaines de centimètres dans votre jardin, en fait, c'est du solaire, hein, tout simplement. Hein, c'est pas de la géothermie. Hein. Mais bon, oui, pourquoi pas. Alors, on avait mis 3 gigatep aussi, vous voyez, avec... Alors là, il faut voir que si on fait 3 gigatep, 1 gigatep de production d'électricité seulement, et 2 pour le thermique, parce que là, on épuise, et je reviendrai aussi tout à l'heure là-dessus, toutes les ressources naturelles en métaux rares. C'est-à-dire que là, une fois que vous avez fabriqué ça, eh bien, tous ces métaux qu'on appelle rares, qui servent effectivement à fabriquer ces panneaux, eh bien, vous avez épuisé ce qu'il y a sur Terre. Parce que si on appelle ça des métaux rares, c'est justement parce qu'ils sont rares. Hein. Alors voilà, bon, on pourrait faire ça. C'est-à-dire que, vous voyez, on pourrait dire, voilà, la maison économique, écologique, elle a ses panneaux photovoltaïques, elle a son électrolyseur, sa pile à combustible, elle a sa voiture électrique, etc. Donc, ça veut dire que les habitants de la maison, là, ils fabriquent leur propre électricité et puis ils l'utilisent. Oui, mais vous savez que c'est pas ce qu'on fait, hein. Ce qu'on fait aujourd'hui, eh ben, en fait, vous revendez l'électricité à EDF et à 50 centimes à peu près, et puis vous la rachetez à 3,3. Hein. Donc effectivement, on voit bien, vous avez deux compteurs. Hein. Je ne sais pas si ici il y en a qui ont ça peut-être dans leur maison. Vous avez deux compteurs. Vous avez votre compteur de production et puis vous avez votre compteur classique d'abonnés. Hein. Et donc, ben voilà, c'est pas. Vous consommez pas, surtout pas, vous consommez surtout pas votre électricité que vous avez produite. Vous la revendez 50 centimes à EDF, et puis, ben, vous la rachetez à 3,3. Il faut bien que quelqu'un paye, bien sûr, hein. Alors, j'avais fait une chronique là-dessus, que j'avais appelé ça, c'est la fée électricité. Vous savez, le compteur qui tourne à l'envers. Et, ben, qui paye? Ben, c'est vous, c'est moi, hein. C'est toutes les taxes que vous avez dans votre, en vert, vous voyez ce que vous avez. Alors, c'est hors TVA, ça, hein. Quand je parle de taxes, c'est taxes sur le kilowattheure, hein. Donc, en vert, vous voyez, c'est le coût, du kilowattheure, la production. C'est-à-dire que, bon, ça augmente, mais ça augmente pas, énormément. En revanche, vous voyez, ce qui a explosé, là, à partir de 2009, évidemment, ce sont les taxes, hein, CSPE et autres, qui, vous pourrez regarder vos factures d'électricité. Voilà ce que ça donne, hein. Donc, voilà, hors TVA, voilà ce que ça donne. Alors, c'est la même chose en Allemagne, vous voyez, c'était dans la tribune en 2014, ça. Voilà, la politique allemande crée surtout de la pauvreté. On disait, pour nos amis allemands qu'on prend en exemple avec leur Energiewende, hein, en se disant, vous voyez, quand même, bon, ben, là, on disait, il y avait 7 millions de ménages qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Cette année, les consommateurs allemands, donc 2014, devront subventionner l'énergie verte d'un montant de 23,6 milliards d'euros en plus de leur facture d'électricité au nom de la répartition des charges d'énergie renouvelable. Donc, vous voyez, ils font comme nous. Une augmentation qui s'est soldée par 1,4 million de ménages supplémentaires dans la précarité énergétique. Et ils ont déjà payé 120 milliards d'euros pour les énergies renouvelables depuis 2000. Et entre 2000 et 2013, vous voyez, le prix de l'électricité a augmenté de 80%. Parce que nous, on a fait à peu près la même chose. On a à peu près doublé, là. Or, on voit bien où il faut les mettre, les panneaux. Voilà. Hein, entre les deux tropiques, évidemment. Hein. Le malheur, c'est que, évidemment, dans cette zone-là, ben, tous les pays riches, etc., ils sont au-dessus, quoi. Bon, mais, enfin, à quelques exceptions près. Hein. Or, voilà où c'est rentable. Voilà. Un petit village, à 25 kilomètres de quoi que ce soit, et quand vous interrogez le chef du village, il dit, mais ça nous a changé la vie, quoi. Hein. Avant, on avait une petite lampe à kérosène, ça puait, etc., ça durait une heure. Maintenant, tout le monde a l'électricité, les gamins, ils peuvent étudier, ce qu'ils pouvaient pas faire jusque-là, ça. Bon. Or, ça, c'est la dernière qu'on vient de faire. Je vous dis, il y a trois jours, là, on vient d'inaugurer une centrale en France photovoltaïque. Vous voyez ce que ça donne? C'est beau, quand même, hein. Bon. Toute installation de panneaux photovoltaïques dans des pays qui n'en ont pas un besoin absolu, comme dans tout l'hémisphère nord, là, au nord du tropique du Cancer, empêche l'installation de tels panneaux chez des populations pour qui c'est vital. Pourquoi? Parce que vous avez vu, en fait, on est en train d'épuiser ces ressources naturelles pour fabriquer ces panneaux. Bon, qu'on le fasse, c'est pas bien, mais qu'on le fasse pour des gens pour qui c'est vital, mais qu'on le fasse pour des gens chez nous, c'est complètement, complètement ridicule, quoi. Bon. Alors, je ne sais pas quelle va être la conclusion de la COP21 là-dessus, mais ça, c'est un message fort. Alors, la voiture électrique, on en parle. Alors, évidemment, il y a des obstacles. Il y a le prix, mais le prix, c'est pas grand-chose. C'est surtout, évidemment, l'autonomie. Hein. Ça, pour l'instant, on ne sait pas faire. Alors, on vient de dire, j'ai eu ça la semaine dernière dans un magazine que je lisais, qu'on va mettre des superchargeurs sur les grands axes routiers pour recharger en une demi-heure. Mais ça va pas. Imaginez, vous voulez monter à Paris avec votre voiture, donc elle est pleine, tout ça, vous allez faire 150 bornes, mais tous les gens de Chalon qui vont partir, ils vont faire leurs 150 bornes, et puis ils vont arriver à la station pour recharger. Donc vous allez être 100 ou 200 à vouloir recharger sur la borne qu'il y a pendant une demi-heure. Donc c'est zéro, ça. Ça rime à rien. On peut toujours mettre ça ne sert à rien du tout. Hein. Même pas la peine de le faire. Ça peut être. Hein. C'est-à-dire, c'est une recharge sur autoroute par induction. C'est les Anglais qui sont adressés ça. Alors, peut-être, ça, effectivement, peut être une solution d'avenir. C'est-à-dire, cette voie, ben, il y aura un péage probablement spécial pour ces voitures. Et quand vous roulez sur cette voie d'autoroute, là, eh bien, vous rechargez en même temps votre voiture. Ah oui, là, d'accord. Ça, si on arrive à faire ça, mais c'est encore une fois un progrès technologique, hein. C'est pas demain, hein, que ça va marcher. Mais ça peut être une solution, effectivement. Et puis qui dit véhicule électrique dit ben production d'électricité. Et je disais dans la même part, alors la Norvège, oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'eau, mais ils font quand même du gaz tout à l'heure. Mais la Suède et la France, il est donné comme exemple. La Suède et la France, oui, bon, c'est de l'eau et du nucléaire, donc voilà. Mais c'est tout. Autrement, c'est pas la peine. Si vous fabriquez votre électricité avec du combustible fossile, tiens, on y arrive au combustible fossile. eh bien, bon, c'est pas un véhicule propre. Alors, les centrales thermiques. Alors, aujourd'hui, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une ville d'un million d'habitants utilise un gigawatt électrique. Et il n'y a que le thermique, en fait, qui peut vous produire une telle puissance en occupant une surface limitée. Si vous voulez fabriquer un gigawatt, surtout avec les rendements que vous avez eu tout à l'heure, en mettant des éoliennes, etc., vous allez faire 10 fois, 20 fois, 100 fois le volume de la ville, la surface de la ville. Bon, il n'y a que le thermique qui peut faire ça. Or, des villes de plus d'un million d'habitants, vous savez qu'il y en a quand même plusieurs centaines sur la planète. Hein. Alors, il y a thermique classique, thermique nucléaire. Thermique classique, bah, c'est le combustible fossile. Hein, et puis thermique nucléaire, bah, c'est les centrales nucléaires dont je vous parlerai quand même tout à l'heure, évidemment. À côté du thermique classique, car qui faisait 2,5 gigatep par an, bah, vous avez les autres utilisations, la chaleur, le transport. C'est vrai qu'en transport, on utilise beaucoup, mais on voit guère quand même. Bon, l'histoire de l'avion solaire, je voulais faire une chronique là-dessus, puis j'ai pas eu le temps. Alors, faut pas se méprendre dans mon propos. Moi, je crois dans la recherche technologique, très très profondément. Je ne me moque absolument pas de ce petit avion-là qui essaye, effectivement, électrique, d'essayer de faire le tour de la planète. Parce que j'aurais fait comme ceux, si vous voulez, avec Clément Ader ou Blériot, qui seraient marrés, qui seraient moqués, en disant, vous voyez l'avenir que peut avoir l'aviation, regardez le gars, là, bon, il fait 50 mètres, blum, 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 et puis il écrase son appareil. Bon, on voit ce que ça donne aujourd'hui. Donc, absolument pas. Ce que je mets en cause, c'est les journalistes qui se pâment là-dessus, n'est-ce pas ? Parce que quand même, en disant, vous voyez, c'est du zéro rejet, etc., ils parlent jamais du Boeing qui suit avec les 55 ingénieurs à l'intérieur, qui est là, ça, on n'en parle jamais, hein, du Boeing qui est là. Bon, donc, voilà, bon. C'est pas grave sur le fond, si vous voulez. Cet appareil, c'est bien, il faut le faire, il faudra le refaire, etc. Peut-être qu'on n'arrivera pas à faire voler des avions uniquement avec ça, c'est, probablement. Mais le faire, c'est très, très bien. Mais il y a un discours qu'on entend qui est quand même bon. L'autre chronique que j'avais envoyée à Yves l'autre jour, c'était sur l'huile de friture. Je sais pas si vous avez entendu ça, là, l'huile de friture à Saint-Étienne. On va mettre l'huile de friture pour fabriquer l'électricité pour le stade. Donc le stade Geoffroy Guichard, hein, c'est ça, oui, Geoffroy Guichard. Et j'ai mis un peu, pour une fois, on parle de bons verres, des verres qui ont fait l'honneur de la France, qui étaient les verres de Saint-Étienne, hein, quand même. Et alors. Là, pareil, les journalistes se pâment, si vous voulez, c'est formidable, l'huile de friture, vous rendez compte, le bilan carbone, machin. Ah oui, sauf que l'huile de friture, on va la faire retraiter en Chine, et puis elle va revenir. Non, mais c'est n'importe quoi, je veux dire, vous lisez ça, c'est n'importe quoi, quoi. Bon, franchement, hein. Bon, voilà. Alors, voilà, on est un peu là-dedans. Donc, dans le transport, aujourd'hui, pour sûrement longtemps, on a encore besoin, malheureusement, de ces combustibles. Alors, depuis 2007, le déficit commercial de la France, vous voyez, du même ordre de grandeur que ses importations de pétrole ou de gaz. Or, comme le disait Michel Rocard, la France est bénie des dieux. Et vous voyez, voilà, Robert Badinter, Jean-Pierre Chevènement, Alain Juppé, Michel Rocard, quand même, c'est pas des imbéciles, et puis ils sont pas tous du même bord politique. Et ils ont quand même voilà, lancé ce manifeste, quoi, en disant, attendez, on marche sur la tête aujourd'hui. Nous appelons solennellement les médias, les hommes, les femmes et hommes politiques à exiger que les débats publics vraiment ouverts et contradictoires puissent avoir lieu sans être entravés par des minorités bruyantes, vous voyez à qui ils pensent, et parfois provocantes, voire violentes. Il est indispensable que les scientifiques et ingénieurs puissent s'exprimer et être écoutés dans leur rôle d'expertise. L'existence même de la démocratie est menacée si elle n'est plus capable d'entendre des expertises, même contraires à la pensée dominante. Bon. Ça, c'est bien, ça. Parce que l'histoire des gaz de schiste, bon, alors je vais vous dire ce que j'en pense. Hein, bon, la fracturation hydraulique telle que c'est fait, effectivement, c'est pas la meilleure. Mais moi je dis simplement que, encore une fois, de la recherche, c'est-à-dire qu'on pourrait faire un essai sur 1 km², hein, et d'essayer des méthodes et de regarder ce que ça donne. Parce que de toute façon, si effectivement on a, vous voyez, il y a la Pologne et il y a la Pologne. Tiens, j'étais en Pologne encore l'autre jour. Alors là, bon. C'est parce qu'ils veulent acheter des réacteurs nucléaires, donc bon, il dit quand même, on est en compétition avec les Américains. Il y a un truc dont on ne pouvait pas parler les Américains, c'était de Marie Curie, parce que nous, on accueillait Marie Curie, toi, il pleurait d'émotion, le brave Jean dans la salle, quand j'aurais parlé de Marie Curie, Marie Skłodowska-Curie, il faut dire d'abord. Hein. Mais vous voyez, on a, voilà, gaz de schiste, Pologne-France. Bon, les Polonais, évidemment, bon, on l'exploite, de façon pas très propre, ça c'est clair. Et moi je dis, un jour, de toute façon, on l'exploitera, hein. le jour où on sera acculé à le faire parce qu'on n'aura plus d'énergie, on n'aura plus rien, on achètera l'énergie à un tarif complètement énorme, alors qu'on est juste sur un tas comme ça énorme, on pourrait économiser 24 milliards d'euros par an. Et il y en a au moins pour 25 ou 30 ans. Bon. Donc, quand on voit qu'on recherche 100 millions, 24 milliards, c'est quand même pas rien. Bon. Mais simplement, dire voilà, on fait un essai. Ben non, on n'a même pas le droit de faire un essai. C'est interdit. Voilà. On ne peut rien faire. On est le seul pays, ouais, où... Alors, avec la Bulgarie, vous voyez, tout est interdit, mais la Bulgarie, elle en a pas, donc elle s'en fout, en fait. Hein. Et, alors, regardez ça. Alors, je montrais ça à mes députés. Alors, il y en avait qui étaient députés, comme Mme Bateau, ils n'étaient pas très contents. Delphine Bateau adresse un carton rouge à l'Académie des sciences, tout simplement, parce que, voilà, les académiciens, ils voulaient écouter un géophysicien qui est Vincent Courtillot, qui disait pas la même chose que les autres, mais bon, adresse un carton rouge à l'Académie des sciences. Mais de quel droit, avec quelle compétence, sur quelle base est-ce qu'on peut dire j'adresse un carton rouge à des académiciens quand même? C'est incroyable. Bon. Mais à la même époque, vous voyez, vous avez Laurent Fabius qui est en Algérie, et puis qui dit ah ben, tiens, on va vous aider à exploiter votre gaz de schiste. Ah, moi, je dis de deux choses l'une. Ou alors, il n'y a aucun risque à exploiter, et pourquoi on ne le fait pas? Ou bien l'exploitation, elle est dangereuse à en croire les écologistes, et il ne faut pas encourager des autres pays à le faire, hein, en les aidant à prospecter, voire en leur achetant. Ben là, non, si, là, enfin, on va vous aider. Mais nous, ah non, non, nous, on ne peut rien faire. Ça, on n'y touche pas. Bon, c'est quand même bizarre, quoi. Alors, le bois, la biomasse. Alors, vous avez biomasse chaleur, biomasse transport. Alors, biomasse chaleur, vous voyez, aujourd'hui, c'est 10% de notre énergie, quand même. C'est la combustion du bois, de la paille, des ordures ménagères, hein, dans des usines comme ça, vous en avez un petit peu partout. C'est très utilisé, le rendement énergétique est fait, mais c'est très utilisé. C'est responsable aussi, j'ai vérifié trois fois les chiffres la première fois que je les ai mis, parce que je voulais pas le croire, 1500 morts par jour, selon l'OMS, c'est-à-dire, c'est, évidemment, c'est des asphyxies, quoi, hein, parce que là, on évacue très très mal les gaz et tout, 1500 par jour, quand même, c'est pas rien. Et alors là aussi, bon, les centrales à bois, vous voyez, il y a le canard enchaîné que j'ai tenté. Ils m'ont épinglé une fois, d'ailleurs, avec ce que j'avais dit. Mais vous voyez, 855 000 tonnes de bois récoltées, entre guillemets, dans un rayon de 400 km. Et pendant 10 ans, comme il n'y en a pas assez, on en importe. Alors vous voyez, le bilan aussi, quand même, est vachement positif, là, en CO2. Importé du Canada, des États-Unis, de Russie et des autres pays de l'Est. Mais la société allemande E.ON, dont je vais vous reparler tout à l'heure, c'est l'équivalent de notre EDF en Allemagne. Évidemment, ben voilà, EDF lui achète à 115 euros le mégawatt quand elle le produit à 33. Mais elle est obligée de le racheter à 115. Donc évidemment, c'est rentable. Et la conclusion, vous voyez, du canard enchaîné, c'était l'oseille, c'est vert. Hein. Alors, les biocarburants. Oui, biocarburants. Mais alors, c'est pareil, quand vous entendez un ministre qui vous dit « Ah, vous voyez, c'est formidable, parce que la plante, elle pousse, donc tout le temps qu'elle pousse, elle fixe du carbone, donc du CO2, et puis, bah, le jour où elle meurt, qu'on la brûle, bah, on rejette le CO2, bilan zéro. » Non, pas bilan zéro. Faut mettre du carburant dans le tracteur, vous voyez, faut fabriquer les engrais, faut broyer et purifier le produit de la culture, faut distiller le produit obtenu si on est dans la filière alcool. Le bilan, il serait zéro, pourquoi? Pour une famille, par exemple, qui se chaufferait uniquement au bois. Il faut, c'est pas impossible, hein, il faut 5 hectares de forêt. De façon à ce que quand on coupe un arbre, ça ait le temps de repousser, etc. 5 hectares de forêt, bon, évidemment, on n'utilise pas de tronçonneuse, hein. On coupe à l'hache, hein. Et puis, il n'y a pas de tracteur, c'est la brouette. Ah ben oui, oui. Si vous voulez que ce soit bilan zéro, oui. Et là, vous avez raison, là, bilan zéro, effectivement. D'accord. Mais il faut tout ça, quoi. Hein. Bon, qui fait ça? Pas moi, en tout cas. J'ai pas les 5 hectares, déjà. Donc, j'ai même pas besoin de... Alors, vous voyez, évidemment, là, vous prenez des surfaces cultivables. Tout à l'heure, il y avait les surfaces bloquées par le photovoltaïque, par l'éolien, etc. C'était pas forcément des surfaces cultivables. Là, c'est de la surface cultivable. Et j'avais fait un papier en disant, on connaissait le slogan « boire ou conduire, il faut choisir, il va falloir s'habituer à manger ou rouler, il faut trancher ». Et quelques temps après, de temps en temps, je retrouve mes trucs pris par des journalistes, alors c'est bien, c'est un honneur pour moi. Voilà, ça, vous voyez, papa, on a faim, il dit, il faudrait savoir, on avait dit aujourd'hui, c'est la voiture. Bon, ouais, on ne peut pas tout faire. Hein. C'est un dessin de Chimulus. Donc vous voyez, voilà, c'est quand même là, c'est 25 fois la surface de la France en terre cultivable, si on veut faire 4 gigatep, C'est énorme. Alors les autres énergies dites renouvelables, il y a l'énergie géothermique, oui, bien sûr, bon, on le sait ça, hein, la température de la Terre augmente d'un degré pour 30 mètres. Bon, vous avez des pays donc comme l'Islande par exemple. Quand j'étais allé en Islande faire une conférence, j'avais dit mais vous allez devenir un pays riche parce que le prix de l'énergie va augmenter et vous, le coût de l'énergie va continuer à être nul. C'est de l'eau et de la chaleur, donc du coup vous allez devenir un pays extrêmement riche. En manque de bol, c'était avant, vous savez, leur crack boursier, la machin bancaire. Donc, du coup, bon, après, ils ont dû se dire, il nous a raconté n'importe quoi. Mais non, c'est vrai, c'est bon. Enfin, il y a les desserts, etc., quand vous êtes là-bas. Enfin, bon. Les pompes à chaleur, oui, voilà. On récupère, vous voyez, 150 mégatep sur les 660 des centrales nucléaires. Parce que vous entendez parler qu'on rejette, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, c'est tout à fait vrai. Hein, le rendement des centrales nucléaires, il est de 33%, 40% dans les surgénérateurs. Donc ça veut dire qu'on a les deux tiers, c'est de la chaleur qui part. Bon, mais on les récupère, vous voyez, on fait des causeries marines, il y a la ferme aux crocodiles du côté de Pierrelatte. La ferme aux crocodiles, c'est rigolo, parce qu'à l'époque, c'était pour faire des sacs, en fait, hein, et des chaussures, donc on élevait les crocodiles, et puis comme on prenait des bébés, puis il fallait attendre que ce soit devenu, évidemment, des adultes, alors on disait, ben, on va en faire une espèce de ferme, on va montrer aux enfants, etc. Et puis ça marche tellement que, du coup, ben, on fait pas de sacs et on fait pas de chaussures, et on a fait une ferme qui était intéressante à... On part des œufs et puis on... C'est pas sympathique quand même aux crocodiles, vous savez, c'est pas... Ils ont pourtant... Alors, parce que vous avez les techniciens là, qui sont là, qui leur donnent à bouffer et tout. Des fois, il faut bien qu'ils rentrent pour nettoyer. Alors, ils sont à deux. Je prends juste deux secondes, hein, ça n'a rien à voir avec le... Et il y en a un qui est avec une pelle. Et puis, vous voyez, le crocodile, quand même, il s'approche. On sent que c'est pas amical, quoi, hein. Alors l'autre, pendant qu'il y en a un qui est en train de travailler et tout ça, donc l'autre avec la pelle, blang, je vois un grand coup, alors il recule un peu, et puis bah, il revient quand même. Hein, bon, c'est pas sympathique. Alors les énergies des mers et sur la mer, c'est-à-dire comme le offshore, là oui, il y a beaucoup de projets, et vous avez compris que moi je suis pour tous les projets, je aucun avis négatif là-dessus. Les usines marémotrices, il n'y en a pas beaucoup. On en connaît une, évidemment. Nous, on a baigné dessus avec l'inauguration par De Gaulle, etc. À la Rance. Bon, il ne faut jamais quand même oublier les 19 gars qui sont dans le béton, hein, qui ont été enfouis dans le béton. Et ils y sont toujours, hein, quand même, quand on a fabriqué... au moment où ils ont coulé, en fait, 2 mètres de béton, ils ont envoyé le béton et ils ont oublié qu'il y avait 20 gars en train de bosser en dessous. Quoi. Bon, donc ils y sont toujours. Hein, bon, il y a une plaque quand même dessus. Bon, voilà, bon. Et ça, en termes écologiques, ça a quand même beaucoup perturbé le milieu, quand même. Hein. Bon. Alors, vous avez l'énergie hydrolienne, l'énergie des courants, l'énergie des vagues, l'énergie thermique. C'est tout plein de projets. Bon, celui-là, c'est comme un TGV, vous voyez, sur les vagues. Bon, moi, je me moque de rien. Des fois, je vois des gens qui se moquent, tout ça. On ne sait jamais quel peut être l'avenir. On a des projets donc d'éoliennes offshore... Bon, ça, c'est les hydroliennes, hein, on en entend parler. Voilà, il y en a une du côté de Bréa, là, qu'on a fait fonctionner un petit peu. Vous avez l'énergie thermique aussi, on peut récupérer. C'est assez développé quand même déjà. Il y a de quoi, voilà, en fonction de des différences de température de l'eau. La houle, ouais, avec ces espèces de trucs comme ça, voilà, on s'en fait manœuvrer, bon. Bon, j'ai mis à quel coût, hein. Peut-être on fera un gigatep dans 35 ans, mais bon, à quel coût, ça, je sais pas. L'énergie musculaire, j'en avais parlé. Bon, alors, voilà, il y a le chariot du Père Noël aussi qui est là. Hein. C'est pour bientôt, là. Alors, on me dit aussi dans mes conférences, oui, mais ça, c'est pour les énergies que vous connaissez, mais il y a les énergies que vous connaissez pas. Alors, je dis, ben si, mais les énergies, même les énergies qu'on connaît pas, on les connaît, en fait. Pourquoi ? Tout simplement, vous voyez, parce que quand vous regardez bien les domaines énergétiques, alors quand vous regardez les grandeurs, hein, vous avez le domaine du milli, par exemple le millimètre, milligramme, et puis après, ben, facteur 1000, vous avez le micro, hein, micromètre, vous êtes au millionième. Après, vous avez le domaine du nano, hein, on parle aujourd'hui des nanotechnologies, etc. Et quand vous êtes au nano, vous êtes au niveau de l'atome, et donc vous êtes au niveau de l'énergie chimique. Mais quand vous êtes dans le nucléaire, c'est-à-dire au niveau du noyau de l'atome, eh bien, vous êtes dans ce qu'on appelle le domaine du femto, c'est-à-dire que vous avez un facteur 1 million, en fait. Et puis après, vous avez la limite, c'est le domaine de l'atome. Ça, vous êtes au CERN à Genève, là. Bon. Et on a l'impression qu'il y a un chaînon, effectivement, qui manque. Mais ce chaînon qui manque, je vais vous dire un mot dans un instant, parce que ça m'a concerné, voyez qu'il est de toute façon au-dessus du femto. C'est-à-dire qu'on est déjà allé plus bas. Hein. Alors, ça serait le domaine du picot, évidemment, ça serait les choses. Alors, j'ai travaillé dans ce domaine-là, nous, avec plus ou moins de bonheur. J'ai même reçu un prix Nobel, vous voyez, quand j'étais jeune, hein, bon, qui était Georges Charpak, qui est venu un jour au téléphone en disant « Ce que vous faites m'intéresse, est-ce que je peux venir ?» Alors, j'ai dit « Je vous en prie, monsieur, venez. » Il me dit « Oh, mais ce sera un grand honneur pour moi. » Je lui ai dit « Exagérez pas, quand même, faut pas vous pousser, l'honneur, il sera quand même plutôt pour moi que pour vous. » Et il est venu discuter, il est venu deux fois d'ailleurs, avec des experts et tout ça, et il se passe des choses bizarres. Et donc je reviens sur ce domaine du picot. Vous voyez, probablement il y a quelque chose dans ce domaine. Il n'y a pas que moi qui le dis, j'ai discuté avec des grands directeurs de recherche qui finançaient d'ailleurs mon laboratoire, hein, le laboratoire que j'ai dirigé pendant 20 ans au CNAM. Et ils sont tous persuadés bon, qu'il y a quelque chose, mais on a du mal. Si un jour, je pense que ça marchera un jour, et si un jour on trouve quelque chose là-dessus, ça ne donnera pas plus d'énergie, ça donnera de la souplesse. Imaginez aujourd'hui les batteries dont on parlait tout à l'heure, c'est des batteries chimiques, avec lesquelles vous faites 150 km en l'air chargé. Si vous faites une batterie picochimique, vous faites 150 000 km en l'air chargé. Ça change la donne. Et tout ce qu'on disait tout à l'heure sur les avions, sur les bateaux, etc., ça change la donne. Voilà, mais ça ne donnera pas plus d'énergie, hein. Je ne suis pas arrivé à intéresser l'industrie automobile, bien que j'avais des contacts avec le président de Peugeot à une époque. C'est bizarre. Les gens ne leur demandaient pas beaucoup. Je disais, moi, il me fallait 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Quand ils font des pubs à la télé, je ne sais pas combien ils dépensent. Bon, avec plus ou moins de bonheur. Je leur disais pas qu'il y avait quelque chose. Et c'était oui ou zut, mais non. Ils disaient, oh non, c'est à l'État à faire la recherche. L'État disait, non, ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, bon. Mais ça marchera un jour. Hein. Alors, l'isolation thermique des bâtiments, bien sûr. Ça, c'est vrai, quand vous comparez avec l'Allemagne, hein, moi, j'ai mon fils qui travaille en Allemagne, dans sa maison, l'isolation, c'est autre chose. Hein, bon. Alors, il faut faire des économies d'énergie, vous avez dit. Alors, il y a des trucs qu'on peut faire facilement, vous voyez, ça, par exemple. Ce cochon-là, ça aurait pu être une histoire belge, s'il était abattu en Belgique, vous voyez. Il est né au Canada, il a été élevé en Australie, et il a été abattu en Belgique. Il faut arrêter, quoi. Il a fait 35 000 km avant de finir dans une assiette. Et 6,54 € le kilo, il n'est même pas vendu très cher. Vous voyez bon, faut arrêter. Bon, est-ce que en Belgique, hein, on a besoin d'avoir un cochon qui est né au Canada, qui a été élevé en Australie, puis qui est revenu. Bon, c'est là que le livre de Jean Covici, dont vous parliez tout à l'heure, qui disait qu'il suffirait de mettre une bonne taxe là sur le truc, sur les transports et tout. Là, on arrêterait parce que là, il serait plus à 6,16 € le kilo, hein, si c'était ça. Donc ça, on peut faire. Bon. Vous avez ça aussi, hein, comme moi, vous achetez un téléviseur, et puis là, vous avez trois bottins comme ça, où en 157 langues, vous avez le mode d'emploi, alors que vous avez besoin de 10 pages, c'est tout. Hein, tout simplement parce que vous, c'est fait en Corée, machin, clac, 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 c'est fait, puis ça part pour tous les pays. Bon, ça a beau être du papier recyclé, bon, on pourrait arrêter quand même. Bon. Mais, vous voyez, tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est informatique, ça consomme énormément d'énergie. Or, vous avez tout à l'heure le grain de riz et le transistor, c'est-à-dire tout ça, ça va se développer, ça va être une demande énergétique considérable. On fera des progrès, mais vous voyez, téléchargement sur son ordinateur de la version électronique d'un quotidien, ça c'était d'après l'OPCST, c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques. Il marquait une lessive, donc ça veut dire l'énergie d'une lessive. Bon, une recherche sur le site Google, une heure de lumière. Bon. Et un chercheur de l'université de Reid avait montré que le fonctionnement d'Internet pourrait, dans 25 ans, consommer autant d'énergie que toute l'humanité aujourd'hui. Bon, donc là, il y a des choses à faire aussi. Bon, un smartphone consomme plus d'électricité qu'un réfrigérateur, paraît-il. Alors, l'espoir encore dans la recherche technologique. C'est vrai, les LED, là, on arrive maintenant à avoir des lampes qui dépensent peu. Ah oui, ça, c'est nouveau, hein, c'est Champs-Élysées cette année, là. Et donc, on va dépenser 10 000, paraît-il, 10 990, on aurait pu arrondir à 11 000, mais on a mis 10 990 kWh en 2015. C'était 480 000 il y a 10 ans. Et le journaliste qui est bon en maths a dit, ben, vous voyez, il y a 10 ans, c'était 8 fois plus. Alors, je comprends pourquoi maintenant, à chaque fois que je vois dans les magasins, moi, le truc est vendu 4,99 €, je dis, on nous prend pour des cons. Non, ça marche, hein, avec des gens, vous voyez, parce qu'il y en a, ils prennent 10, voilà, bon. J'aurais pu faire un truc là-dessus aussi, mais je vais, bon. Alors, on avait prévu avec mon camarade journaliste, là, 1,5 gigatep d'économie. Mais vous voyez que quand vous regardez tout à l'heure mes scénarios, rien que le scénario du XXe siècle, sans faire mieux, il faut trouver 32,5. Et bien, les 32,5, même si vous faites 1,5 gigatep d'économie, ce qui fait quand même plus que 10% d'aujourd'hui, ce qui est considérable, parce que c'est des pays comme nous, évidemment, qui doivent faire ces économies-là, eh bien, on n'y est pas. Hein, on va arriver à 30, c'est tout. Bon. Donc, on ne peut même pas respecter l'hypothèse minimaliste. Et pourtant, entre 2000 et 2013, vous voyez, on est passé de 10 à 13,5. 2,67% par an, c'est-à-dire on a fait plus que les 2,35. Alors, il reste le nucléaire. On a prévu 3. 3, on fera même pas ces réacteurs-là. Mais donc, on ne se passera pas du nucléaire. La planète ne peut pas se passer du nucléaire. Donc, il faut s'y préparer et relever, donc, évidemment, les défis du nucléaire. Et savoir stocker l'énergie, ça, c'est d'autres défis. Et puis, si on veut utiliser l'hydrogène, vous savez que l'hydrogène, ceux qui ont travaillé avec l'hydrogène, c'est une vraie saloperie. Hein. Il n'y a aucun matériau qui tienne aujourd'hui. Donc il faut savoir, évidemment, assurer les stockages d'hydrogène. Et bien sûr, toutes les sources d'énergie, quelles qu'elles soient, seront exploitées, y compris les gaz de schiste, etc. Il faut s'y préparer. Alors, le nucléaire. Donc, alors c'est la seule énergie qui est issue du sol et qui n'est pas émettrice de gaz à effet de serre. Alors, elle a des réserves estimées à 4 siècles, mais il y en a énormément dans l'eau de mer. Il y en a 1000 fois plus que dans l'écorce terrestre, hein, pour des raisons de chimie et donc de lixiviation. Vous avez les réacteurs de l'avenir qu'on appelle les réacteurs de génération 4 qui vont aussi peuvent se développer. Alors évidemment, contrairement aux autres sources d'énergie, eh ben la technologie, elle est lourde, c'est-à-dire que vous prenez du bois, vous le brûlez, ça chauffe. Bon, c'est pas parce que vous trouvez du minerai d'uranium dans votre jardin que ça va faire de l'électricité, hein. Donc c'est lourd à mettre en œuvre et ça marche pourquoi ? Parce que le pouvoir énergétique par unité de masse, il est 2 millions de fois plus élevé. Si vous regardez la combustion d'un gramme de carbone, alors là, j'ai remis des joules, l'unité officielle, ça fait 33 000. Ah, la fission d'un gramme d'uranium, vous voyez, ça fait 82 milliards. C'est-à-dire, vous avez un facteur 2,5 millions. Si on fait de la fusion plus tard, on a parlé dans une autre conférence hein, que j'avais faite ici, c'est mieux, mais c'est jamais qu'un facteur 7. Et si vous comparez à l'énergie maximale qu'on pourrait faire, c'est-à-dire appliquer non pas delta E égale delta M C2, mais E égale M C2, c'est-à-dire l'annihilation matière-antimatière, 90 000 milliards, c'est certes beaucoup plus, mais vous voyez que globalement, même par rapport à la fission, ça vous fait jamais qu'un facteur 1000, quoi. C'est-à-dire plus jamais on fera un saut technologique important en termes d'énergie que le jour où on est passé de la chimie classique au nucléaire. Alors ça se ressent évidemment sur le coût du mégawattheure ou du kilowattheure. Vous voyez que la France, évidemment, quand vous la comparez aux autres pays, eh ben, on a un coût qui est plus faible. Donc c'est bon aussi pour nos industriels. Je vais passer assez vite sur les réacteurs. Alors aujourd'hui, on en a l'EPR. Alors l'EPR, je vous en parlais un peu, parce que quand on en parle, c'est toujours en termes négatifs. Il prend du retard, il coûte de plus en plus cher, etc. Ce qui est vrai, d'ailleurs, sur le plan. Vous avez ici, c'est l'EPR de Flamanville. Donc vous savez que je milite aussi dans les commissions locales d'information, en particulier donc celle de Flamanville, qui sont des commissions de contrôle et de surveillance aussi avec l'environnement. Donc c'est un problème que je connais bien et que je suis bien. Donc, oui, on est passé de 2016 là, à 2018. Celui de Finlande, d'ailleurs, qui avait démarré en 2000, deux ans avant nous, devrait démarrer aussi en 2018. Et à mon avis, ça ne serait pas étonnant que ce soit les Chinois qui en ont acheté 3 qui démarrent avant nous. Hein. Mais ils n'ont pas les mêmes contraintes en termes de protection de l'homme dans génie civil. Quoi. Nous, on prend beaucoup de retard parce qu'on a eu déjà 2 morts de génie civil. Et on fait très très attention maintenant. Quand il y a un mouvement de grue, tout le reste est arrêté et tout. Je n'ai pas l'impression que là-bas, ils prennent le même soin. La production française d'électricité. Alors, ça aussi, quelques idées fortes là-dessus. Vous voyez, on est passé de 50 milliards de kilowattheures en 55 à 10 ans après 550, c'est-à-dire donc 11 fois plus. Hein. Et même la part d'ailleurs, non pas en pourcentage, mais en valeur du thermique classique et l'hydraulique a été plus que doublée. Mais évidemment, la grande part, c'est ce que vous voyez en vert là, c'est le nucléaire. Alors on vous dit, oui, mais on consomme de moins en moins d'électricité. Ben, il n'y a qu'à regarder, hein, puissance maximale appelée sur le réseau, plus 4,5% par an en moyenne sur 60 ans. Hein, et ça continue. Hein, bon. Alors, 8 février 2012, je faisais une conférence d'ailleurs dans la Nièvre, là, je ne sais, bon, le nom me reviendra. Nevers. C'est la Loire, non ? Même Nevers, la Loire. Ce soir-là, c'est vrai qu'il faisait très très froid. C'est là où on a battu les records, vous savez, de froid. Et donc, on a battu le record de consommation. C'est la première fois qu'on dépassait 100 000 mégawatts à 102 098. Le pic, alors vous pouvez aller tous les jours hein, sur le site de RTE, tous les jours, vous voyez la consommation. Et tous les jours, vous voyez un pic à 19h. Assez curieusement, personne ne s'explique. C'est pas 18h45, c'est pas 19h15, c'est 19h. Tous les jours, le pic, c'est 19h. Et ce soir-là, 102 098. Le minimum à 4-5 heures du matin, 84 500. Eh bien, ce minimum de 84 500, c'était le record de 2005. C'est-à-dire que là, on a consommé le moins, ce soir-là, c'était le record de 2005. Donc ça donne une idée quand même, un petit peu. Alors évidemment, les 102 000, ce soir-là, vous le voyez, les réacteurs nucléaires, ça faisait que 58%, et pourtant, ils tournaient quasiment tous, ce qui était assez exceptionnel. Mais bon, on n'a que 62 gigawatts, donc 62 000 installés, on ne peut pas faire les 102 000. Hein. Et ce soir-là, vous voyez, qui nous a vendu l'électricité ? Alors, des soirs comme ça, là, le mégawattheure, vous avez, je vous ai parlé tout à l'heure de 30 euros, là, il dépasse les 400, il est entre 400 et 500. Pourquoi ? Parce que c'est le marché. Hein. Qui en veut ? Moi, j'en ai. Et on a surtout acheté aux Danois. Pourquoi ? Parce qu'ils ont développé l'éolien. Ayant développé l'éolien, il a fallu qu'ils mettent autant de gaz. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, le raisonnement. Normalement, évidemment, si les éoliennes tournent, le gaz ne marche pas. Il n'y a pas de raison. Puisque les éoliennes fournissent... Ah oui, mais ce soir-là, ils avaient le bol que les éoliennes, elles tournaient. Ils ont fait aussi tourner leur centrale au gaz. Là, ils ont récupéré du fric, hein. Je peux vous dire que... Bon, voilà. Là, c'était merci l'éolien en indirect. Alors, oui, évidemment, les réacteurs nucléaires, 70% au plus bas, c'est logique, mais 58% seulement au pic. Si vous regardez les éoliennes, ah oui, ça, c'est intéressant aussi. Vous pouvez aller retrouver ça, parce qu'on retrouve dans les archives, hein, tout ça. Alors, à 4 heures du matin, là, où on s'en foutait qu'elles tournent, les éoliennes, on n'aurait pas besoin qu'elles tournent, il y en avait la moitié, regardez. 3030 sur 6600 quasiment. En revanche, on aurait bien voulu à 7 heures du soir qu'elle tourne. Ben non, voilà. Il n'y en avait plus que 1560 sur 6600. Hein. C'est-à-dire qu'il y a l'intermittence d'une part, mais il n'y a pas que ça. Il y a la non-fiabilité. C'est-à-dire que, voilà, quand on n'a pas besoin, elle tourne, et quand on en a besoin, bon, elles ne le font pas exprès. Hein. Mais n'empêche, quoi. Bon. D'où le stockage d'énergie, quoi. Voilà. Si on stockait l'énergie, on aurait stocké à 4 heures du matin. On a dit, ce soir, à 19 heures, on va le relancer, bien sûr. Ça va l'heure, je regarde. Oui, ça va, j'ai encore un quart d'heure. Alors, j'avais écrit à l'époque, nucléaire vient de subir un séisme et la planète est contrainte de lui éviter un tsunami. Mais il faut s'y préparer et tirer les leçons des accidents du Japon. J'ai quelques belles images très impressionnantes à vous montrer qui ont été prises par les caméras de Fukushima avec l'arrivée du tsunami. Mais comme je veux respecter le temps, si vous êtes intéressé, je les passerai tout à l'heure, mais s'il y en a qui doivent partir... Comme je veux qu'ils entendent mon message jusqu'au bout, je ne les passe pas tout de suite. Et vous voyez le problème n'était pas le tremblement de terre. Les centrales ont très bien résisté. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'au moment du tremblement de terre, donc du coup, le réacteur s'est arrêté, ça a très bien marché, mais il faut continuer à refroidir le cœur. Et là, à ce moment-là, vous avez les diesels de secours qui se mettent en marche automatiquement. Ça a très bien fonctionné, sauf que 55 minutes après, le tsunami est arrivé et que le bâtiment... Il était au ras de la terre, là, donc il a été noyé complètement. Et à partir de là, voilà les ennuis qui ont commencé. Alors je vous disais que je militais à la CLI de Flamanville, et moi, à ce moment-là, je pose la question. On avait une réunion deux jours après avec le responsable à Montrouge de l'EPR. Je lui dis, mais est-ce qu'une vague de. On parlait d'une vague de 13 mètres, 12 mètres ou 13 mètres à l'époque. Et qu'est-ce qui se passerait là sur les diesels de l'EPR ? Ah, il dit, ils sont noyés pareil. Ah oui, quand même, faut arrêter un peu les conneries, là. Bon. Et le lendemain, il y a un député du Nord qui dit « Ah, si les Japonais avaient un EPR, et au moins, ils auraient été tranquilles, ça ne serait pas arrivé. » Alors là, du coup, j'ai dit, bon, j'ai plus rien maîtrisé, hein, c'est parti. J'ai eu les télévisions du monde entier, chez moi, à Cherbourg, etc. Vous voyez, Jacques Fosse, vice-président de la commission locale de Flamanville et professeur honoraire du Conservatoire des arts et des métiers, a exprimé des doutes et inquiétudes sur les conséquences pour l'EPR d'un raz-de-marée similaire, etc. Un scientifique reconnu, c'est le journaliste qui le dit, hein, c'est pour moi. Hein. Bon. Et voilà, donc tout est là, vous voyez. Bon, 9 mai, 12 mai, j'ai demandé si... Alors, bon, pendant quelques heures, quand même, je me suis dit, vu le foin que ça a fait, médiatique, je me suis dit, j'ai peut-être dit une connerie, quand même. Puis, vous voyez, le lendemain, quand même, l'autorité de sûreté nucléaire dit, la plupart des réacteurs nucléaires au monde seraient en grande difficulté s'ils avaient été confrontés aux mêmes catastrophes naturelles qu'a subi la centrale japonaise de Fukushima la semaine dernière. Ah, j'ai dit, bon, ça, c'est l'acte 2, 15 heures après, je suis plus tout seul. Et puis, l'acte 3, vous voyez, 15 jours plus tard, le président de l'autorité de sûreté nucléaire, il planche devant l'Assemblée parlementaire, c'est-à-dire Sénat et Assemblée nationale, et le seul truc qu'il dit, vous voyez, à Flamanville, pour l'EPR, ne serait-il pas préférable de positionner les diesels en haut de la falaise plutôt que juste en bas, à côté du bâtiment réacteur, afin de se protéger de toute vague géante? Il n'y a pas besoin d'années de réflexion pour prendre position sur ce point. Oui, parce que moi j'avais dit, quand on a la chance d'avoir la falaise juste derrière, merde, on les met en haut, les diesels, on ne les met pas en bas, quoi. Bon, donc... Alors l'EPR, 5 ans de retard, 10 milliards d'euros. Bon, alors les 5 ans de retard, ça c'est une énorme connerie de EDF. À chaque fois que j'aurais posé la question, ils m'ont jamais répondu. C'est une tête de liste, une tête de série, pardon. Et c'est une tête de liste avec les élections là, qui arrivent. C'est une tête de série. Ils ont dit, mais pourquoi vous êtes allé dire que vous alliez le faire en 4 ans et demi? Alors que... Vous voyez, là, voilà, ça, c'est le planning. Alors que les autres, quand vous regardez le premier du N4, là, 155 mois, ça fait 13 ans. On n'a jamais entendu qu'on avait mis 13 ans, que c'était scandaleux, on a mis 13 ans pour fabriquer un réacteur. Là, pourquoi ? Vous auriez dit, là, vous allez le faire en 10 ans. Bon, vous auriez dit, tiens, ben, voilà, on va essayer de le faire en 10 ans, on va voir si on réussit. Et vous allez le faire en 10 ans. Tout le monde aurait dit, bravo ! Au lieu de ça, comme des crétins, vous avez dit que vous allez le faire en 4 ans et demi, alors que c'était impossible à tenir. Et du coup, depuis, vous avez entendu, comme moi, sans arrêt, on dit le retard, le retard, le retard. Bon, c'est bien fait pour eux, c'est pas vrai, ils ont fait ça. Bon. Quant aux 10 milliards, alors c'est pareil, les 10 milliards, vous voyez, la surface occupée par l'EPR, c'est 51 hectares, masse de béton 1 million de tonnes, donc vous avez vu tout à l'heure. Et donc, j'ai calculé la production annuelle, même en prenant non pas le rendement prévu de 91%, en disant on risque de me chicaner puisqu'il n'a pas tourné, je vais prendre celui des centrales classiques à 82. Donc ça fait 11 milliards de kilowattheures. Et j'ai comparé pour fabriquer, pour produire 11 milliards de kilowattheures par an, combien il faut de fermes éoliennes, fermes solaires, etc. Bon, je vous passe les calculs, je les ai. Vous voyez, une ferme solaire, le coût 27 milliards pour faire la même chose. L'éolien offshore, 19 milliards. L'éolien onshore, 14. L'EPR, 10. Bon. Quant aux surfaces, alors là, vous voyez, la ferme solaire, département du 9-3, comme on dit aujourd'hui, vous voyez, c'est 22 400 hectares. Donc là, vous mettez ploum, partout des panneaux photovoltaïques. 7 500 hectares, 6 000 hectares, 51 hectares. Bon. Alors, de ça, je vais même donner un schéma, ça va se faire en disant, on peut même, puisque c'était un problème de refroidissement, je dis, quand on a une falaise, on peut même mettre de l'eau, ce qu'on appelle l'eau gravitaire, parce que il y a un truc qui fonctionne toujours, qui tombe jamais en panne, c'est la gravité. Hein? Donc, vous mettez de l'eau en haut, puis bah, vous faites descendre. Bon. Alors, ça y est, hein, vous voyez, EDF va procéder à l'installation de groupes électrogènes d'ultime secours, ce qu'ils appellent le GUS, permettent aux pompes des systèmes de refroidissement de fonctionner, quelles que soient les circonstances. De même, un appoint en eau supplémentaire devrait être mis en place. Donc, 58 diesels, on a 58 réacteurs, 58 diesels vont être installés. Une fois, on visitait avec mes étudiants à un endroit, et puis la fille parle de l'installation qu'elle était en train de faire. Alors, ils m'ont tous regardé, ils m'ont dit « Ah, monsieur Faux, c'est vos diesels !» Elle dit « Bah oui, ça, c'est les miens. Ça, c'est clair. Vous voyez, voilà, ça... » Quand même, franchement, vous regardez ça, ça fout les boules, quand même. Un accident comme Fukushima. Voilà, un gros moteur de camion, il faut, c'est tout, il faut faire tourner la pompe. Il faut un gros moteur de camion. Alors, vous dites quand même, quoi, c'est extraordinaire, quoi, quand même. C'est fou, quoi. Bon, voilà, vous voyez, à Flamanville, alors c'est pas le définitif, mais ça y est, ils sont en train d'en mettre un sur le PR aussi. Et voilà, les réservoirs d'eau, vous voyez, voilà, ça y est, on les a. Bon. Alors, ils ont appelé ça GUS, je dis, vous auriez pu les appeler FOSS, vous voyez, Force Opérationnelle et Occasionnelle de Secours. Ça aurait été mieux quand même, hein, et puis ça aurait été un petit peu plus juste, quoi. Alors, sortir du nucléaire. Bon, vous voyez, aujourd'hui, une vingtaine de modèles de réacteurs du type EPR. La Chine, la Corée du Sud, bon, la France, bien sûr, le Japon, la Russie, les États-Unis. On a des démonstrations un peu partout. En 2015, on a 40 pays qui envisagent d'avoir recours à l'énergie nucléaire. Je vais revenir... J'ai bientôt fini, hein. Oui, ça va, oui, 2 minutes, oui, c'est bon, c'est bon. 16 pays de l'Union européenne ont réaffirmé leur attachement au nucléaire dans leur mix énergétique. Et la Chine a signé un accord avec la France pour développer alors un dérivé, un réacteur qui s'appelle Atmea, qui au lieu de 1600 MW, il fait que 1000 MW. Là, au Royaume-Uni, vous avez entendu aussi parler donc la construction de plusieurs EPR. Même les États-Unis, qui n'avaient rien fait depuis les années 80, hein, vous voyez là, hop, relance des anciens réacteurs, bon, les premiers, vous voyez, depuis l'inauguration de 86. La France, est 9 mars 2015, vous voyez, 8 pays européens plaident pour le soutien à l'énergie nucléaire, parce qu'ils disent effectivement, on ne voit pas pourquoi, les aides publiques qu'on donne aux énergies décarbonées, dont on parle un instant, on ne les donne pas au nucléaire, il n'y a pas de raison de donner qu'à l'éolien et au photovoltaïque. Alors, quelques nouvelles de 2015 en vrac. Alors, vous voyez, les parcs éoliens en mer, ben, ça fait des vagues, comme West France, hein, vous voyez. Voilà, maintenant, ben, ces grands sites qu'on veut fabriquer, même France Nature Environnement, vous voyez, qui pourtant prône les trucs d'énergie renouvelable, n'est pas très chaude. Donc, voilà, en Vendée, levée de bouclier. Vous avez la même chose sur l'hydroélectricité, vous voyez, c'est pas si mal, c'est un petit barrage sur la Dordogne. Bon, manifestation. En revanche, ça, on ne vous parle jamais de ça, hein, parce que dès que la France, ça va bien, on n'en parle pas, on vous parle que quand ça va mal. En mars 2015, la France vient de se placer au troisième rang au classement des meilleurs systèmes énergétiques mondiaux. Mes députés n'étaient pas au courant. Hein. Bon. Derrière la Suisse et la Norvège, et devant les 123 autres pays étudiés. Et on était également médaille de bronze en 2014 et en 2013. Alors que nos voisins, vous voyez, Royaume-Uni, Allemagne, il recule sans arrêt, 10e, 11e, 12e pour le Royaume-Uni, 14e, 15e, 16e pour l'Allemagne. Les critères retenus, c'était l'accès à l'énergie, le développement durable, la compétitivité énergétique. Accès à l'énergie, oui, d'accord. Développement durable, donc évidemment, il y a les émissions de CO2, etc., les particules polluantes. Hein. La compétitivité énergétique, ben, la consommation nécessaire pour un point de PIB, tout ça a été pris en compte. Le 11 novembre 2015... E.ON, l'équivalent de l'EDF. Alors, vous avez entendu parler de la perte, effectivement, importante d'Areva. C'est 4 milliards. Bon, on en a beaucoup parlé, etc. Bon, vous n'avez pas entendu parler de ça. Le 11 novembre 2015, qui est quand même une date un peu magique pour les Allemands, quand même, le 11 novembre, douloureux résultat d'un grand ménage dans ses comptes, traduit par une colossale perte de près de 7 milliards. 6 milliards 985 millions en un trimestre. En un trimestre. Et le quatrième trimestre, il devrait encore y avoir 500 millions. On n'en parle pas, ça. Arriva, on en parle. Mais là, E.ON, hein, on dit toujours, les Allemands, c'est formidable, regardez les renouvelables, les machins, et tout ça. Mais là, on n'entendait pas parler. Hein. Alors aujourd'hui, il y a 438 réacteurs en activité dans le monde. Il y en a 82 en construction. Il n'y a jamais eu autant de réacteurs nucléaires en construction dans le monde. Hein. Bon, je ne vous dis pas si ça me plaît ou ça ne me plaît pas, si je suis content ou pas, mais je veux dire, voilà. Il faut voir la réalité des choses. Hein. Et nous, on a des réacteurs, on fabrique des réacteurs. Il faut qu'on reste dans cette dynamique. Un réacteur qu'on vend, c'est 500 emplois d'ingénieurs en France. On ne parle pas des milliers d'emplois, non. En France, un réacteur. Bon, vendre une centrale de 4 réacteurs, c'est 2000 emplois d'ingénieurs en France pendant au moins 10 ans. Bon, zut. Alors, pour qui roulent les antinucléaires? Alors là, quand il y a des gens de sortir nucléaire dans les conférences, ils n'aiment pas que je balance ça, parce qu'en plus, c'est vrai. Vous voyez, dépêche de l'agence Reuters. Le collectif français Sortir du nucléaire s'est réjoui samedi de la décision de la Chine de choisir Westinghouse Electric au détriment du groupe Areva pour la réalisation de 4 réacteurs nucléaires civils de 3e génération. Pékin a préféré le réacteur eau pressurisé AP1000 de Westinghouse, groupe racheté au début de l'année par Toshiba, plutôt que l'EPR. Le réseau Sortir du nucléaire ne peut que se féliciter de l'échec d'Areva qui espérait vendre son réacteur EPR en Chine, déclare le collectif dans le communiqué. Fin de citation. Moi, si je milite dans un truc qui s'appelle Sortir du nucléaire, je me lamente que les Chinois achètent des réacteurs nucléaires à qui que ce soit. Mais je me réjouis pas que mon pays perde un marché de plus de 30 milliards d'euros. Hein? Alors là, en général, c'est bon. Alors là, ils attaquent. Bon, ça devient... Mais voilà, c'est quand même bizarre, quoi. Ils doivent se lamenter que les Chinois achètent des réacteurs nucléaires. Entre parenthèses, ils vont démarrer les EPR là avant nous, mais ils vont pas démarrer les AP1000. Hein. Ils n'arrivent pas à faire fonctionner les pompes primaires. Bon. Ah oui, sortir du nucléaire, ça c'était à Cherbourg, ça, oui. Ni nucléaire, ni effet de serre. Bon, faut savoir, hein. Bon. Alors, l'antinucléaire n'est-il pas en train de passer l'illogisme le plus pur? Vous avez le même réseau sortir du nucléaire. Les associations alsaciennes opposées à l'énergie nucléaire ont annoncé avoir déposé un recours en référé devant le Conseil d'État contre des travaux visant à renforcer la sûreté de la centrale. Alors, même pour renforcer la sûreté du central, ils sont contre. Heureusement, ça a été rejeté, mais c'est quand même un peu bizarre. En revanche, vous voyez, Greenpeace, pollution des centrales à charbon, quand même en Allemagne. Bon, il estime que cette année-là, en 2010, 3100 personnes sont décédées de façon prématurée à cause des émissions de CO2 et de la fine poussière de métaux empoisonnés générés par les centrales, qui provoquent des maladies, etc. Bon, ça c'est toujours la même étude, vous voyez, encore 2155, et le nuage ne s'arrête pas aux frontières, comme on montrerait, et l'Europe dit, voilà, conséquences sanitaires lourdes, hein, voilà, la pollution liée à la combustion du charbon, le lignite, la houille, coûterait chaque année 43 milliards d'euros de dépenses de santé supplémentaires à l'Union européenne. Regardez ce papier-là d'une revue scientifique. L'utilisation de l'énergie nucléaire a permis de sauver 1,84 million de vies de 71 à 2009. En se basant sur les scénarios de l'AIEA, les scientifiques estiment qu'il y aurait eu, vous lisez comme moi, si ça n'avait pas été le charbon mais le gaz, ça aurait été moins, mais c'est quand même entre 420 000 et 680 000. Bon, là aussi, affaire à suivre. Je vous mets ça deux secondes parce que c'est quand même assez amusant. C'est montré, si vous voulez, un peu le 11 mars 2014. Il y a eu un pic de pollution dans la région parisienne. Alors c'est marrant parce qu'il y a les pics de pollution dans la région parisienne. On vous dit que c'est les camions, diesel, etc. Mais c'est toujours quand c'est les vents d'Est. C'est-à-dire c'est quand c'est le lignite qui arrive d'Allemagne. Quand c'est le vent d'Ouest, les camions ils polluent plus. Hein, c'est rien. Hein, bon. Et que ce pic de pollution conduirait à une perte d'espérance de vie de 6 mois pour les Parisiens, situation revécue d'ailleurs début 2015. Bon, ceci étant, la population parisienne, elle a pas, elle a continué à vivre, etc. Bon, vous voyez là, à Fukushima et donc dans toute la région, le gouvernement japonais a évacué 110 000 personnes avec une radioactivité, peu importe le chiffre, retenez le 20 millisieverts par an. En disant on évacue, partout il y a 20 millisieverts par an, on évacue. Or, vous voyez que pour atteindre la même espérance de vie qu'ont accepté les Parisiens, il aurait fallu que la population japonaise fût soumise pendant un an à une dose 360 fois plus élevée que la norme, et donc 18 fois plus élevée que les 20 millisieverts. C'est-à-dire que, voilà, quand c'est de la pollution comme ça, on n'en parle pas. Quand c'est la radioactivité, comme les gens ne savent pas de quoi ils parlent, eh bien, tout de suite, on prend des précautions. J'ai dit au préfet de la Manche que c'était une connerie. Si on devait évacuer des gens à 20 millisieverts, il y a des gens dans le monde entier qui vivent depuis des siècles et des siècles, génération après génération, avec de la radioactivité naturelle à 300 millisieverts par an. Bon. Et ils s'en portent très bien. Et ils font des centenaires comme ailleurs. Bon. Et je lui dis, faire évacuer à 20 millisieverts par an. Il m'a dit, mais bon, bien sûr que si, je le ferai, parce qu'on me demandera de le faire, donc je le ferai. Mais ça sera une connerie. Oui, c'est une connerie. Je passe ça. Voilà, j'en arrive à la fin. Ce que je veux vous montrer, donc j'ai fait un papier qu'a reçu à l'occasion de la COP. Donc j'ai fait quelques observations qui sont des observations personnelles, mais que je vous retranscris ici. Puis après, c'est fini, c'est promis. Personne ne met plus en doute aujourd'hui le réchauffement climatique, quelles en soient les causes. Je rentre pas là-dedans, parce qu'il y a les climato-sceptiques. Bon, on a un réchauffement, c'est sûr. Bon, ça va se traduire par un dérèglement du climat, mais ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri, malgré tout, comme on l'a vu en 2012, de pics de froid et donc de pics de consommation. Donc il faut s'y préparer comme au reste. Quelles que soient justement les causes de ce réchauffement, il est certain qu'il faut essayer de diminuer au maximum les émissions de gaz à effet de serre comme le CO2 provenant de combustibles fossiles. Et de toute façon, l'application du simple principe de développement durable implique une consommation la plus faible possible de ces combustibles, puisqu'ils vont diminuer, de toute façon, ils vont même disparaître. Troisièmement, mais il ne faut pas se leurrer, les pays qui possèdent des mines de charbon, de lignite, on le voit bien, de houille, etc., ne vont pas s'affranchir de cette manne. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que cette consommation ne va pas augmenter. Faire plus serait souhaitable, mais c'est mal parti. Aujourd'hui encore, c'est le charbon qui est la source d'énergie la plus consommée. Les Allemands n'ont pas hésité à rouvrir les mines de lignite, le plus sale des charbons, pour respecter leur sortie programmée du nucléaire. Quatrièmement, continuer à utiliser malgré tout les combustibles fossiles en s'appuyant sur le stockage du CO2, parce qu'on entend ça, c'est un leurre de plus. Le stockage a un rendement faible, il consomme de l'énergie, et de toute façon, tout le monde dit que le relargage interviendra avant 300 ans. Alors imaginez que dans 200 ans, nos descendants, là, il n'y a plus de rejet de CO2, plus rien. Ils disent, ça y est, ah, on n'a plus qu'un degré d'augmentation, machin, tout va bien. Et d'un seul coup, merde, il y a tout le CO2 que nous ont envoyé les arrière-grands-parents, là, qui ressort. Alors qu'ils sont pour rien, ils ne peuvent plus rien faire. Merci beaucoup, les ancêtres. 5. Limiter les rejets de ces gaz par pays doit supposer une comparaison entre nations. Ce n'est pas raisonnable de demander les mêmes efforts aux bons élèves comme la France, d'autant plus que ça ne conduit pas au même résultat. Imaginez qu'on demande à tout le monde de faire un facteur 2. Bon, vous avez l'Australie qui est à 19, nous on est à 5,3, 5,6. Donc il va falloir qu'on soit à 2,8. Donc, comment on va faire pour être à 2,8? Les autres, ils s'en foutent, ils sont à 19, ils vont arriver à 10. Ils vont être tranquilles, ils vont respecter. Sauf qu'ils feront encore 10, c'est-à-dire bien plus que nos 5,6 aujourd'hui. Ça, c'est pas raisonnable. On ferait mieux de se mettre d'accord sur une valeur à atteindre pour tous les pays. Et une fois qu'on aura atteint ce résultat pour tout le monde, eh ben, on se retrouve pour fixer des nouveaux objectifs. Oui, ça serait raisonnable. Le recours aux énergies renouvelables, 6, est une des voies possibles. Mais là aussi, en dehors du fait que le coût de l'énergie va exploser, leur faiblesse vient de leur intermittence et de leur non-fiabilité. Et il faut toujours se souvenir, hein, par rapport aux centrales thermiques, parce qu'on vous donne toujours des chiffres en puissance installée. Hein, on vous dit, on a installé 200 mégawatts d'éolien photovoltaïque. Oui, et on a installé, par exemple, 200 mégawatts de gaz. Oui, sauf que la centrale à gaz, elle a un rendement de 90%, et l'autre, elle a un rendement de 11 ou de 20%. Hein. Donc, il faut regarder les kilowattheures derrière fournis. 7. Je crois qu'il y a 11 points, hein, c'est tout, donc on arrive au bout. Le recours à ces énergies passe par une recherche. Ah oui, ça, la recherche technologique poussée sur le stockage de l'énergie. Et justement, faire confiance à la recherche technologique est probablement le plus grand espoir de réussite du défi lancé. Encore faut-il que les pays présents à cette conférence décident des choix et des financements. On peut imaginer un jury international qui ne soit pas composé, comme j'avais écrit mon papier, mais là je ne pouvais pas tout écrire, des ambassadeurs de l'environnement, vous voyez, comme Nicolas Hulot là, qui se balade partout en Boeing d'ailleurs. Hein, donc non, il faut prendre des directeurs de la recherche de grands groupes industriels mondiaux et faire un choix et distribuer l'argent. 8. Si on veut que ces sources d'énergie intermittentes et non fiables donnent le meilleur d'elles-mêmes, il faut les installer pour la puissance éolienne là où il y a du vent et loin des tissus urbains, et pour le solaire autour de l'équateur, dans les pays situés entre les tropiques. Cela tombe sous le sens, mais ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Là, j'ai remis ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc je ne reviens pas là-dessus. Chaque installation de panneaux photovoltaïques dans des pays qui n'en ont pas besoin empêche ceux pour qui c'est vital de le faire. 10. Toutes les sources d'énergie sont à développer, comme la géothermie, la biomasse, les énergies de l'eau, etc. Est-ce que c'est possible? L'avenir le dira. 11. Il ne faut pas se leurrer, la planète ne peut s'affranchir d'aucune source d'énergie nucléaire compris. Ce n'est pas parce que les Allemands ont décidé de sortir du nucléaire, en attendant d'ailleurs un retour toujours possible en arrière pour des raisons économiques, que la planète va suivre. Il n'y a jamais eu autant de réacteurs nucléaires en construction. Il faut simplement garantir une utilisation sûre de ces réacteurs et contrôler chaque jour et partout le respect de ces règles de sûreté. La seule grande gagnante, de toute façon, de la COP21, ça sera, on en a déjà parlé, vous l'avez déjà entendu, ce qu'on appelle l'énergie décarbonée. On peut être à peu près sûr que tous les pays vont se mettre d'accord là-dessus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi ces sources d'énergie décarbonées, il faut choisir celle qui est la plus fiable, la plus économique, la plus sûre parce que c'est la plus contrôlée, et donc la plus respectueuse de l'environnement sous tous ses aspects, la surface hybride, etc. Hein? Et donc mettez-vous à la place d'un pays qui a de l'argent, qui a de la technicité, etc. Ben, quelle source d'énergie va choisir qui respecte l'énergie décarbonée? Je vous laisse choisir, hein, the winner is. Je vous laisse faire parce qu'après on dirait que je suis trop chauvin, donc je ne veux pas. En conclusion, donc, ce qui me semblera important comme décision à prendre lors de cette conférence, mais je pense que ce n'est pas ce qu'on va faire, mais on verra bien. Je referai un papier après, d'ailleurs. On va prendre un peu de recul, et puis en fonction de ce que j'ai dit, hein. Premièrement, faire appel et faire confiance à la recherche technologique en investissant les moyens nécessaires pour qu'elle aboutisse au résultat escompté et fixé par contrat. Installer les énergies solaires éoliennes là où elles ont le meilleur rendement et là où elles rendront le maximum de services aux populations. Se mettre d'accord sur une quantité maximale de rejet de CO2 international par an et par habitant, en se donnant 10 ans pour l'atteindre. Cette valeur pourrait être fixée à 50% de la valeur moyenne mondiale, ce qui représenterait déjà un progrès considérable, tout en laissant la possibilité justement à des pays qui ne consomment pas beaucoup de pouvoir continuer, parce qu'ils ne seraient pas à cette limite-là. Pour ce qui concerne l'énergie nucléaire et dont les technologies futures montrent, avec les réacteurs de quatrième génération, qu'on peut même en faire une ressource renouvelable, privilégier l'installation de ces réacteurs dans les pays de haute technologie, quand même, avec un contrôle par une instance indépendante et internationale au-dessus de la souveraineté des nations. Réponse dans quelques jours. Mais combattre le dérèglement climatique, ce n'est pas le seul défi de ce siècle, en fait. C'est jamais que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai problème auquel l'humanité est confrontée, c'est celui de l'épuisement de toutes ses ressources naturelles, quelles qu'elles soient. Ça dépasse l'énergie. Et ceci est dû avant tout à l'accroissement de la population mondiale. Hein, encore une fois, 232 000 terriens en plus par jour. Et il n'y a aucun signal qui montre que ça va diminuer, bien au contraire. Je crois que c'est ça, le grand défi de ce siècle, il est là. Il est beaucoup plus général que ce que fait la COP21. Bien, merci pour votre attention. Il est 8 heures.
Bon, merci pour l'enthousiasme et votre humour. On n'est pas surpris du discours, on vous connaît et on se connaît, donc, mais ça fait du bien un petit peu de remonter le moral de temps en temps. On a le droit de poser des questions. Hein ? Oui ?
Oui, moi je voudrais savoir, vous avez reçu les députés.
Non, non, c'est eux qui m'ont reçu.
Pardon ?
C'est eux qui m'ont reçu.
Ah, ils vous ont reçu. Combien étaient-ils et qu'est-ce qu'ils ont dit ?
Alors, on m'avait dit qu'il pouvait être 5, parce que, tu sais, Jacques, là, souvent, des fois, on fait des conférences, ils sont 5, je dis oui, ils ont autre chose à faire. Eh bien, ils étaient 25. Ils étaient 25. Et la salle était pleine, en fait. Et la salle était pleine. Donc, ça veut dire que jamais ils ont plus que ça, puisque autrement, ouais, c'est toujours la salle où ils font leurs conférences, donc, bon, ils optimisent, hein. Bon. Et ça a duré 2 heures, hein, c'est ce que je vous ai peut-être tout à l'heure, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Ou... Et ils sont restés tous jusqu'au bout, alors qu'il y en avait qui avaient dit moi j'ai mon train à 6 heures, il faut que je parte. Et en fait, ils sont restés jusqu'au bout. Et ils m'ont même demandé de revenir, ce qui c'est pas encore fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais bon, j'ai dit que j'étais à leur disposition. Bon, j'enverrai mes voeux au président du truc, et puis on verra bien. Ils n'avaient pas tous la même sensibilité. Et il y en avait qui, effectivement, qui hochaient la tête, comme vous, en disant « oui, bon, machin ». Il y en avait d'autres qui étaient quand même plus sceptiques par rapport à ce que je disais, quoi. Mais ils n'osaient pas trop l'ouvrir parce qu'ils étaient en minorité, en fait. Donc,
sur ce plan-là, ça a été... vivant, hein, quand même.
Ah oui, oui, oui. Non, mais, après, j'ai été invité à dîner tout en haut, là. On voit la tour Eiffel, là, vous savez, tout en haut de leur truc, bâtiment. On voit la tour Eiffel, et comme c'était le soir, là, après les illuminations et tout, c'était magnifique. Magnifique. J'ai eu droit à mon whisky et puis à mon repas, sans problème. Non, je prends un peu d'avance pour tout à l'heure.
Il y a une question là-haut. Et il y a une question.
Géographie de la répartition des sources intermittentes fait qu'à tout moment, avec des supraconducteurs, il y aura quelqu'un pour utiliser dans le monde.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Ça fait partie des progrès technologiques, ça, bien sûr, la supraconductivité. C'est... Mais là aussi, vous voyez, on pourrait faire des... Des fois, dans les conférences, les gens me disent « Oh ben, dis donc, on va sortir de là, comme ça, on n'a plus d'énergie, tout ça. »
Non, mais là, les gens sont
Est-ce que vous pouvez nous donner un argument pour nous remonter un peu le moral ? Et je dis « Le cerveau humain n'a pas de limite. La limite, c'est le fric. Hein, et le fric, le travail des hommes. C'est-à-dire, bon, voilà, pas les bulles spéculatives. Et je dis, voilà, si lorsque Kennedy a dit dans les années 60, ça marche avec vous, là, parce que on est à peu près du même âge. Quand j'ai des jeunes, ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas que quand dans les années 60, on disait « Je mets l'argent qu'il faut, mais je veux qu'avant 10 ans, il y ait un Américain sur la Lune », c'était un rêve encore. Les jeunes, aujourd'hui, ils disent « Bon, on est sur la Lune, on leur dirait demain, on va sur Mars. » Donc, le langage marche. Mais avec nous, ça marche, parce que quand on est venu, mettre un homme sur la Lune, c'était extraordinaire. Et il a dit, je mets l'argent qu'il faut, mais avant 10 ans... Du coup, les plus grands cerveaux, ils n'étaient pas emmerdés, je parlais d'administration tout à l'heure, ils demandaient du fric, ils l'avaient, ça. Aujourd'hui, il faut faire des papiers en 14 exemplaires, il faut justifier, machin, et puis on vous dit, non, mais vous n'aurez que 10% de ça, parce que vous comprenez les crédits, les machins, bon. Là, tu veux 3 millions, t'as 3 millions, le lendemain, on veut les 4 millions, on avait 4 millions, bon. Et du coup, voilà, les gens, ils travaillent, bon. Et ben, il n'empêche qu'avant 10 ans, il y a eu un homme, ça une. Si à la même époque, mais évidemment, ça ne faisait pas rêver les Américains, il avait dit « Je mets l'argent qu'il faut, mais avant 10 ans, je veux qu'on sache stocker l'énergie à grande quantité. » On aurait su stocker l'énergie à grande quantité dès l'année 1970. Si demain, on disait la même chose, si c'était la décision qui était prise, avant 10 ans, on saurait stocker à grande quantité l'énergie. Et on a écrit ça dans le... Au moment où on écrivait le livre avec Saint-Jacob, eh bien... Il y a eu Obama qui a parlé du Sputnik Moment. Et il reprenait exactement cette idée-là. C'est-à-dire qu'il disait, ben voilà, il y a eu un truc qui a fait que les Américains y sont allés parce que les Russes faisaient mieux qu'eux avec leur Sputnik. Il fallait absolument qu'ils fassent mieux que ça. Et il disait, ben voilà, alors là, c'était plutôt en termes d'informatique et autres. On va faire le même défi. En fait, ils n'ont pas fait le même défi du tout, mais il avait repris cet exemple-là aussi. Bon. Il n'avait pas lu mon livre parce qu'il n'était pas sorti encore. Donc, bon, on ne peut pas dire ça. Mais vous voyez, voilà. Et pareil avec la supraconductivité, on dirait, on met l'argent qu'il faut, mais je veux qu'on fasse des progrès énormes, on les ferait. Donc moi je crois effectivement dans la recherche. Mais à partir de là, voilà, il faut faire les bons choix. C'est pour ça que j'ai aucune confiance dans les politiques sur des choix en termes de recherche technologique, c'est clair. Mais avec bon des patrons de recherche de grands groupes industriels, on doit pouvoir faire des choses quand même.
Bien, on va vous remercier.
Alors, ceux qui ont le temps, je montrerai les photos de.
Oui, mais non, là, je crois qu'il faut qu'on parte parce qu'il y a la contrainte de la fermeture. Voilà. Oui, les photos de Fukushima, je les ai aussi, hein, je te les montrerai. Hein. Bon, pendant que vous montrez.
Ils sont là, oui. Oui, j'en ai pas pour longtemps. Oui. Il suffit que. Je les avais masqués, vous voyez, donc je vais les démasquer. Et puis, voilà. Voilà, on va remettre sur le... Ça va très vite parce qu'elle passe, évidemment très vite, comme vous allez voir.
Le tsunami, ça va vite.
C'est assez impressionnant. Mmh. Bon, voilà le site de Fukushima la veille. Et à 11 mars à 14h46, donc un séisme de force 9 frappe le Japon. Bon. Les réacteurs sont immédiatement automatiquement arrêtés. Les groupes diesel, je vous dis, sont immédiatement automatiquement mis en route. Les systèmes d'injection de sécurité sont alimentés, l'installation est dans un état stable et sûr. À 15h41, le tsunami arrive. Ça, c'est les caméras donc au-dessus de... Là, on aurait pu mettre les diesels, d'ailleurs, entre parenthèses. Ah, il y a bien des digues de protection, vous voyez. Voilà ce que ça donne. Hein. Et ça rentre. Et là, vous voyez, c'est de 20 secondes en 20 secondes. Ça, c'est le bâtiment que vous voyez sur le côté. Vous voyez, grillagé et tout, là. 15h42, 00. 15h43, 00. 15h43, 20. Vous voyez la voiture, là, qui est en train de monter ? 15h43, 40. 15h44, ça redescend. 15h44, 20. 15h45, voilà, c'est reparti. Sauf que bah, tout est noyé, l'eau s'est retirée, et les accidents commencent. Voilà. Ouais. Bon. Eh bien, ça aurait été bien, autrement.
Merci d'être venu. Et puis, je pense que vous viendrez une quatrième fois, parce que non, moi, je trouve que c'est sympathique. Et votre enthousiasme est communicatif. Voilà, merci.